It looked like you and Patrick Vieira were trading insults and threats in the tunnel beforehand. What happened?
Don't want to go into too much detail, but Patrick Vieira is 6'4" and starts having a go at Gary Neville. He says, come and have a go at me. Simple as that.
Bonsoir, bienvenue dans Radio Stoub. Radio Stoub, l'émission de résistance depuis Londres, depuis
Lunedorf,
cette patrie, cette terre de résistance, Lunedorf. Nous allons masquer nos identités, hein, puisque nous sommes maintenant recherchés suite à l'opération Commando. On vient, on frappe et on s'en va de samedi. Néanmoins, j'ai l'honneur de vous présenter Stroutim, qui est là, qui n'a pas peur. N'ayez pas peur, comme disait le grand homme.
Ayez confiance, comme disait le grand homme.
Voilà, Chanty, merci d'être venu. Kittel aussi est là. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone. All alone in a time of need. Because he's racing and racing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Bonjour à tous. Ça va?
Ça va, au vu de mes émotions automobilesques et télévisuelles.
Et brumatoises.
Et brumateux, ouais, et bernolsamoiseux.
Bernolsamoiseux.
C'est sur le banc de Bernolsamoiseux.
Okay. On en parce reparlera ou pas. JP Darky. They don't want to talk.
Et surtout la santé, j'ai envie de dire. Et blourg à tous, blourg à toutes. J'ai échappé à un attentat des séides, je ne dirais pas de qui. Qui a des nervis qui ont essayé de d'attenter à ma santé en mettant du thé dans ma bière. J'ai encore quelques effets secondaires. Je vais essayer de tenir pour vous, pour toi, car l'information avant tout.
C'est tout à ton honneur. De l'honneur, il en a à revendre. Au kilomètre, c'est Roulian. So when we think back to our ancestors, respectfully we hark and thank the man who should have broke the chain. It's a long road up ahead of us, let's forge on while we're strong and leave a mark of honor once again. So come on around. Bonjour à tous et surtout c'est important, c'est la famille, comme dirait Xavier Dupont de Ligonnès. Donc surtout la famille c'est important.
Ouais. C'est et important. Les Lillois, dans les Niçois c'est des PD. Enfin, si on se rappelle certains bus de la ligne la plus longue d'Athènes.
Je t'arrête tout de suite, car nous avons oublié de citer évidemment
notre MC,
notre hôte,
ouais.
Notre guide. Notre lumière.
Notre grand timonier.
Ouais,
notre chaudière.
Notre chaudière. Le mec, il est chaud. Hein. Ouh là là. Et j'ai nommé Gigas.
Avec cette chaleur tropicale. Neudorf.
Oui.
Sans transition, l'émission. Ça me fait penser à Régis Dorn.
Régis Dorn. Ouais.
Marseille. Qui a marqué contre Marseille.
Il a marqué contre Marseille. Ouais. Le match où Franck Dumas
a mis un CSC et il lui a offert le but.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Loueba aussi. Non, pas Loueba. L'autre qui faisait galipette aussi, il a marqué contre Marseille.
Perret ?
Non. Un monsieur, dernier match de la saison, il y a
Simon Zenke.
Zenke, merci.
Ah, là-bas. Simon Zenke. Ah, Marseille.
Il joue avec Bolsheim, un petit peu.
Bah oui, mais bon.
Voilà, donc sans transition, remettons-nous dans le contexte. Nous sommes fin octobre. Il fait encore un temps magnifique et le Racing se déplace à Rennes. Le Rennes qui n'est pas encore le Rennes de Julien Stéphan, mais qui est le Rennes de Bruno Genesio.
Ouais.
Une équipe en pleine bourre. Et les oiseaux de mauvais augure disent « Nous allons prendre une déculottée ».
Oui.
Sur Radio Stu, le précédent Radio Stu.
Mais les ronds de cuir, les...
Ah voilà.
Les zélotes. Non, on a des mots là, il faudra noter tous ces mots aussi.
D'ailleurs, il n'y avait aucun.
Alors, je note
personne zélotes. De la précédente émission n'est là aujourd'hui.
Sauf moi.
Sauf Gigas.
Mais moi, c'est parce que j'habite ici.
C'est les gens qui n'ont pas assumé leur pronostic.
Akma, Hathor, Calcio.
Bah, je crois qu'ils ont.
Ils sont défilés.
Eux, les CI, ils ne les ont pas loupés. Hein.
Voilà, ils ne sont plus là.
Oui, c'est vrai, finalement, pauvre Hathor, quoi.
Bah ouais, on pense à toi.
Ouais.
Enfin, tu n'es plus là pour nous
entendre. Petit ange parti trop tôt.
Exactement.
Et...
Ouais.
La famille, tout ça.
Finalement,
quelle horreur. C'est Filzer qui veut faire sa minute de silence, quoi.
Ouais.
Alors, c'était quoi ce match à Rennes ?
Bah, tu l'as vu, toi ?
Alors, moi, je l'ai vu par écran interposé. Cette technologie assez incroyable qui est la télévision couleur. Et j'ai vu le match. Et globalement, j'ai l'impression qu'on a eu... deux mi-temps complètement différentes. Une première mi-temps où
bizarre, ça.
On s'attendait, alors comme toujours, donc Strasbourg qui commence, on va dire, on a. À l'époque, on n'avait pas marqué un seul but.
Stabilo.
En première période. Hein.
Ah oui,
c'était.
Toujours,
qui était toujours en cours à ce moment-là. Où on touche pas une balle globalement et que Rennes domine et que fort logiquement Rennes ouvre le score. Mais alors, je me rappelle plus, c'est plutôt en fin de mi-temps.
Hein. Tout au début, on est pas mal, mais ensuite, dès qu'il y a le but.
En deuxième, les premières mi-temps, de manière générale, on se fait.
Voilà. Sur le coup, il revoit les images. Là.
Les autres équipes jouent au Rubik's Cube avec nous.
Ils essayent de mettre le triture jusqu'à ouvrir côté de l'aide. Et généralement, c'est par là
voilà.
Que ça se passe.
Et le souvenir que j'en ai, c'est la deuxième période, on fait des changements, on fait rentrer des joueurs un petit peu plus expérimentés.
Ouais.
Et bizarrement.
Et Rennes plonge physiquement aussi.
Complètement, parce qu'ils avaient joué en Coupe d'Europe.
Ils ont joué en Coupe d'Europe avant.
Terrain très très lourd quand même, il faut dire, il faisait
une véritable galette saucisse quoi.
Il pleut en Bretagne.
C'est ça. Ouais.
Assez galette saucisse.
De temps en temps.
Il pleut des galettes saucisses.
Ouais. Et je pense que le coup de pompe physique des Rennais aide bien le Racing. Parce que s'il y a à peu près une seule chose qui fonctionne correctement au niveau du Racing par rapport au dernier, c'est la préparation physique, c'est les gars courts.
On n'a peut-être pas les mêmes préparateurs physiques non plus que l'année dernière.
Ouais.
C'est quand même con d'avoir pas une vidéo, les deux.
Vous l'avez vu cette semaine, la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux par le club, sur les kinés du club. Ils ont une série, les métiers du Racing, et ils passent en revue. Là, ils ont passé les 4 kinés du club. Et ils expliquent qu'est-ce qu'ils font avec les joueurs et tout ça. Donc on a quand même 4 kinés cette année qui s'occupent de l'effectif professionnel de Strasbourg.
C'est
ils ont l'air de faire bien leur travail, puisqu'effectivement, on a relativement peu de blessés. On a une condition physique quand même qui est un truc qui marche bien.
C'est ça.
Sachant que les joueurs sont un peu des... Ils sont comme des cancampades, dès qu'ils ont un petit truc. Ah, mais je vais pas m'entraîner aujourd'hui, j'ai mal au.
Il y a des exemptions d'entraînement assez facilement.
Voilà, il est resté au chaud, donc c'est dit dans les DNA. Ou alors, entre les mains expertes du kiné, peut-être certainement, il y a des amateurs.
Mais du coup, effectivement, cette deuxième période, elle est mieux, et on égalise sur une super frappe de Gamero repoussée par le gardien dans les pieds de Modiba.
Un gardien.
C'est ça.
Bon, Mandanda, la frappe est violente.
Mais déjà, il a eu, en première mi-temps, il y a déjà eu une énorme occasion d'Emega à 0-0.
Oui.
Où Emega, un super ballon, je sais pas, de super centre. Il est vraiment idéalement placé face au but.
Oui, tout à fait.
Reprise de la tête d'Emega en plein sur le gardien.
À la 7e
minute. Que malgré tout, Mandanda.
7e minute, très bon
souvenir. 7e minute, a relativement cafouillé. Parce que Mandanda était tellement surpris que ça vienne sur lui. Il était pas prêt.
Forcément, le gars d'Emega cadre un tir, tu peux comprendre que Mandanda soit déstabilisé.
La surprise.
Il a été de nouveau dépassé par cette frappe de Gamero qui a été soudaine. Gamero a même eu une occasion juste avant.
Mais Emega, quand même, on parle du joueur le plus rapide entre la 3e et la 6e minute du championnat, je crois.
Ah oui, et sur les sprints de 12 à 13 mètres.
C'est ça, du pied gauche.
les sprints qui démarrent du pied gauche.
Oui, c'est ça.
C'est
ça.
Avec les chaussettes baissées de 20 cm.
Ouais, et, voilà.
Ce qui est important, c'est le big data. Ça, c'est important.
Ah bah, puisqu'on parle big data.
Oui.
La transition.
Alors, c'est carrément big, puisque dans ce match, il y a 3 tirs cadrés à 3 tirs cadrés.
entre les deux équipes.
Donc, c'est pour te dire que je me suis régalé derrière mon écran.
Énorme régalade. On est sur trois tirs cadrés, sachant que pour nous, en gros, c'est Emega. Et qu'est-ce qu'on a ? On aurait un deux laine, c'est possible ça ?
Ouais,
a priori dans l'effectif.
Ouais. Un tir de loin, ouais. Mais tu vois, enfin, c'est trois tirs cadrés, c'est évidemment assez faible, surtout pour une équipe.
C'est un pic après l'été que nous avons connu.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plus Rennes, tu vois. Et c'est là où je veux.
Rennes, trois tirs cadrés.
C'est ça, c'est que Rennes, c'est quand même une équipe qui a un potentiel offensif certain depuis quelques années. Là, bon, il y avait Terrier qui faisait son retour. Il est quand même pas maladroit et ils ont quelques bons joueurs. Et en fait, c'est à peu près le seul truc que Vieira a trouvé. C'est dit, je vais blinder dans l'axe. Quoi. C'est-à-dire, donc on a ce fameux quatuor là, Perrin, Niamsi, Doucouré, Mwanga, là, ils sont posés devant le but.
Carré magique.
Là, effectivement, il y a un peu de beefsteak et les mecs savent pas forcément tout faire, mais ils savent à peu près défendre. Et donc, en fait, Vieira, il a trouvé ça. Et contre Rennes, c'est le premier match où véritablement le quatuor a été posé, obligé les autres à tourner autour. Il faisait des centres par-dessus. Ils essayaient un peu de tourner comme une équipe de handball sans y arriver, comme on jouait très bas en plus. Et donc, en fait, on arrive à contenir Rennes à trois tirs cadrés, ce qui évidemment nous permet derrière d'avoir une petite chance quand physiquement ils...
Oh, on est resté dans le match.
C'est un peu petite bite comme tactique, mais d'une certaine façon, c'est réaliste.
On joue Rennes qui est fatigué. Rennes ne va pas bien. Rennes a la tête à l'envers. Tu récupères un point à l'extérieur.
Et nous, on reste sur quatre défaites de suite.
Oui,
ça on a déjà oublié, mais parce que la quatrième, non de trois, ouais, trois défaites de suite, on se dit la quatrième, elle est déjà expédiée par la poste.
Mais on avait oublié que Rennes était mauvais et que Rennes était fatigué.
Ouais, c'est ça. Donc c'est
un peu gratté.
Tu vois, c'est cohérent, c'est rentable, mais c'est pas très flamboyant.
Ce qui est impressionnant, c'est
que c'est un peu chier. Quoi.
Ce que tu dis.
Mais en même temps, c'est pas le but. On est à Rennes, on n'est pas là pour être flamboyant. On a rarement fait des.
Ouais, tu vois. Alors, je prends un truc qui a rien à voir. Tu joues à risque. Il y a toujours un connard qui fout toutes ses armées sur l'Océanie pour bloquer le truc à la sortie.
Ça, c'est tiré le reste.
Et le gars prend ses deux armées à chaque tour comme un connard. C'est, normalement, ces gars-là, tu les détestes un petit peu. Alors, c'est cohérent ce qu'ils font, tu vois. Mais, et donc, alors, en fait, Vieira, c'est ce qu'il nous a fait, quoi. Il a dit, je veux pas prendre de but, je vais jouer les nuls à l'extérieur.
J'arrête pas de perdre, je joue à Rennes, je vais jouer sur le fait qu'ils sont pas en forme, je vais bétonner le truc, quoi.
Mais ce que tu dis est juste, puisque effectivement, quand on regarde les distances, des tirs, parce que par contre ils ont 22 tirs, ils en ont 3 cadrés mais ils ont 22 tirs, nous on en a 11, ils sont tous au-dessus de 20 mètres de distance, ils sont plus loin de 20 mètres.
Ouais, donc ils ont tiré de loin.
Ils ont fait que des tirs de loin quasiment.
Et ça c'est grâce au quatuor.
Magnifique.
Et là on est content, 1-1 à Rennes c'est pas mal.
Un match nul à l'extérieur c'est jamais
bien. Que ça
allège un peu la pression du rendez-vous de Clermont.
D'aucuns diront que non, celui à Rennes... déplaît aux gens qui veulent la mort du Racing.
La mort de Vieira,
la mort de Blouko, tous ces salopards.
Il fomente un coup d'état en sous-main.
Exactement, tous les débiles. Même parfois, j'ai lu débiles même.
J'ai lu ça sur la Twitter.
Tous les gens qui n'ont pas d'autres propositions.
Oh, exactement.
Quelle est l'autre proposition ? Quelle est l'alternative ?
Ouais, à Blouko.
Avez-vous des valises prêtes à rendre à Marc Keller ?
Tout à fait. Donc,
mais du coup, on peut même dire, je pense que cette phrase a été dit, il faut un point à bonifier à la méno.
Ça a été dit.
Mmh. Et là,
c'est là où on tombe dans le vœu pieux.
Ouais, on se dit la semaine prochaine, il faut que ce.
Et on joue qui ? On joue qui ?
Clermont.
Clermont qui
Clermont
est.
Clermont
de la merde.
Ouais.
C'est Clermont de la merde.
C'est Clermont le match à
17ème.
17ème sur 18, avec un entraîneur qui m'agace. Rappelez-vous l'année dernière, 0-0, on nous pète le sternum de Ajorque. Exact.
Oui,
vous vous rappelez de ça ?
Ouais, bien sûr.
Ça. Une équipe, on domine tout le match, on fait 0-0. Ouais, voilà. Et là, Clermont qui revient. Et qu'est-ce que fait Clermont ? La même, un jeu de merde. On se fait chier comme des rats morts.
Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais qu'ils ont quand même mis le pied sur le ballon. Sauf que pour une équipe qui est 17ème, c'est quand même eux qui, clairement, ont fait le jeu la plupart du match. Ils ont essayé de coulisser. Pour moi, la grosse problématique de Clermont, parce qu'on est surtout là pour parler des équipes adverses, c'est quand même qu'ils n'ont pas d'avant-centre, quoi. Souvent panique un peu dans notre fameuse défense centrale. Et s'ils avaient eu un avant-centre un peu malin, je pense qu'ils auraient marqué en première période.
Le vrai problème de Clermont.
Ah, mais j'étais là. J'ai vu ce match. Pardon, excusez-moi, je croyais que je l'ai pas vu.
Oui.
Mais j'étais là.
Bien
avec le gros mec, le mec qui ressemblait à Marcellus Wallace.
Oui.
Je l'ai vu. Non, excusez-moi.
Par contre, le gros problème de Clermont, c'est le gardien.
gardien qui fait un arrêt de très grande classe sur la frappe de Manga qui s'infiltre dans la surface en deuxième période. Même gardien, je vous invite à aller regarder tous sur internet le but qu'il offre à Thomasson ce week-end.
Une passe décisive à la Olmeta. Ouais.
Et le troisième but, le troisième but lensois est très beau aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être juste à son niveau contre Strasbourg, ce gardien? Non, il fallait qu'il sorte l'arrêt.
Il a fait des miracles l'année dernière et cette année, alors.
C'est-à-dire qu'il ne nous aime pas, nous? Parce que son niveau global,
il est bon à la méno, futur joueur, futur.
Oh putain, est-ce qu'il a moins de 23 ans?
Continuez, je vais vous dire.
Mori Diao. Diao.
Alors, elles n'ont pas Shamar Nicholson.
Non, pas lui. C'est l'attaquant.
Ça, c'est le Jamaïcain.
Diao. GK, Mori Diao. Ouais. 99, ça c'est son numéro, c'est pas son âge.
Ah, il a 30 ans déjà.
Ouais.
Oh non,
c'est.
Il a raté sa carrière?
C'est du bioc, hein. La vache. De toute façon, il y a. Et dis donc, l'équipe là de Clermont, c'est pas les perdreaux de l'année, hein.
T'as Gonalon, le fils Gastien, le fils de l'entraîneur.
Le fils de l'entraîneur qui. Bah, il est énervant possible, mais il fait ses matchs.
Bah, c'est un joueur de D2, mais bon, il fait l'affaire. Pour l'instant, ils sont en D1.
Mais franchement, à part cette action de Manga, j'ai pas souvenir qu'on ait fait quelque chose de.
Il y avait un but refusé.
Ah oui, pour Emega, pour un demi-centimètre.
Ah oui. Comme d'hab.
Après, ce qui était décevant sur ce match-là, c'est que on leur a clairement laissé la possession. Ça, c'est une constante avec Patrick Vieira.
On leur a laissé ou on leur a concédé involontairement là.
Non, je pense qu'on leur laisse.
Maintenant, c'est tellement un motif qu'on voit à chaque match que je pense que c'est
volontaire.
C'est pensé.
Ouais. Bah, on n'a pas de mecs qui savent mettre le pied sur le ballon. Ce qu'on a, c'est des gars qui savent.
On a des mecs.
Oui, mais ils sont pas sur le point dans le groupe.
Persic.
Ouais.
Si tu me regardes,
imagine.
Mais
ce qu'on a, c'est des gars qui savent à peu près courir et défendre. Donc, on fait quoi? On court et on défend.
Pas tous. On parle de Angelo ou pas?
Est-ce qu'il a joué ce match?
Parce que Angelo, il sait pas défendre.
Mais d'accord.
Mais en fait, Angelo, je pense qu'il. Oula. Attention.
Oui, Angelo était là.
Mais il sait toujours pas défendre.
Non, ça non.
C'est le problème un petit peu d'Angelo, c'est-à-dire que tu attaques à 11 et tu défends à 10, c'est gênant.
Oui, et puis même quand tu attaques à 11.
À 10 et demi, quoi.
Ouais, enfin, ce type-là, il a une intelligence de jeu catastrophique, quoi. Enfin, c'est.
Bah, c'est un gosse.
Ouais, c'est un gosse de soliste.
Mais il s'appelle Angelo Borges.
Ouais.
Mais c'est comme tous les Brésiliens,
il a. Rien. Je crois que c'est Angelo Gabriel.
Non, Angelo Borges Gabriel de
Nascimento. De Las Gainas.
De Las Gainas, de la Linda de Souza et de la Seat Ibiza, tu vois.
Très bien. Ok.
Mais ça rentrait pas dans les cadres.
Ouais, c'est ça.
Sur la feuille de match.
Il a rien en défense.
Faut penser à Fizer, hein, toi.
Est-ce qu'on y pense? Est-ce que Loïc Désiré y pense quand il recrute le joueur?
Faut penser à l'équipe C'est Seafoot de Chiltigan quand on leur lit la feuille de match.
Arrête.
Contre Marseille?
Arrête. Arrête.
Il faut que ça rentre dans les cartes.
Arrête donc. Je vois pas. Ça, il faut continuer. On a promis qu'on faisait pas.
Marc Heller, il avait aussi promis beaucoup de choses.
C'est vrai.
Voilà, on voit clairement, effectivement, donc, déception. Est-ce qu'on nous.
T'as donné quoi le score final?
Oui, 0-0. 0-0.
Étonnamment.
Et carton rouge.
Entre deux équipes de. Ah, qui carton rouge pour qui nouveau?
C'est Naya.
C'est un peu stupide ce carton.
C'est très stupide.
Totalement débile.
Est-ce que tous les cartons ne sont pas. Non, je dis pas.
Non. Au contraire, il y a des cartons intelligents, tu vois, les cartons à Didier Deschamps. En fait, il fait. Le premier carton, c'est un carton à Didier Deschamps.
Ah oui.
C'est un carton rentable pour stopper une contre-attaque.
Mais le deuxième.
Et le deuxième est complètement débile parce que le gars.
Parce que c'est le même, mais sauf qu'il en a déjà un avant.
C'est ça. Et par ailleurs, c'est encore à 40 mètres du but et il y a d'autres gars qui peuvent faire la faute
ici. Derrière, t'as Yamsi derrière qui était là, recule.
Oui.
Je suis là, fais pas la faute, gamin. Et bon, finalement.
Ouais, donc c'est.
Et surtout, on a un peu souffert quand même sur la fin du match.
Le carton, il inverse un peu le momentum parce que.
Oui, on venait d'avoir ce but refusé ou quoi. On était
un peu. Et là, tu dis, à 10 contre 11, le 0-0, on prend quoi.
Bah, surtout dans le contexte actuel.
Pas le choix.
On la joue petite bite.
Bon, vraiment. Bah, est-ce que la méno s'est rebellée comme souvent dans ces situations? La double injustice, but refusé,
oui.
On s'en fout qu'il soit valable ou pas, et surtout expulsion.
Les gens se sont rebellés, ils sont partis 10 minutes avant la fin.
Ouais. Encore plus que d'habitude.
Voilà, t'exagères un peu. Enfin.
La Est, ça se dit très.
Si.
Ouais, non, mais c'est un peu une constante depuis le début de la saison, mais c'était moins. Peut-être parce qu'il faisait jour, alors on voyait moins bien.
Et d'ailleurs, c'est encore un guichet fermé, mais où on voit plein de trous quand même.
Alors, ouais. Autant Marseille, je pense que c'est pas été. J'ai des gros doutes sur le guichet fermé de Clermont, quoi. Je pense.
En fait, c'est parce qu'ils ouvrent pas les guichets.
C'est juste pour dire. Non, les guichets sont fermés.
Josiane, tu viens pas ce soir.
Mais techniquement, tant que les places sont vendues, c'est guichet fermé. Après, c'est.
Ouais, mais justement,
ça compte pas les gens qui sont présents au stade.
Non, mais ça, ça a toujours été le cas.
On en a vendu 24 000. Et les 1000 restantes, ouais. On va pas les mettre à la vente parce qu'on sait qu'elles partiront pas, c'est les places oui. en sud.
Non, non, c'était les packs, tu regardes, j'ai dû acheter.
Les packs, ouais. Si tu voulais voir Marseille, tu devais acheter contre Clermont. C'est donc vrai. C'est les mecs qui voulaient voir Marseille, ils n'ont rien à balèque de Clermont, donc ils n'aiment pas.
Ouais, mais il y avait aussi.
Mais la place est vendue.
Y avait du coup, ils sont pas venus contre Marseille non plus.
Il y avait la plateforme de revente, par exemple, j'ai dû, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, mais j'ai dû acheter un ticket sur la plateforme de revente. J'avais jamais vu autant de pages. Alors il y en a qui parlent de Marseille, mais là il y en avait Tribune Ouest, des 5-6 pages de Tribune Ouest, alors que d'habitude bon. Et en tout il y avait plus de 15 à 20 pages. Et ça, le club sait s'il les a vendus ou pas à la fin, puisque ça passe par leur plateforme.
Ouais, alors, mais comme c'est dessus, ils se disent.
De toute façon, on a vendu le billet.
On l'a vendu. Et oui, mais ils en veulent pas, mais je m'en tape parce que c'est payé et donc ça compte comme guichet ferme.
Ça reste une escroquerie.
C'est bien. Mais même. C'est
un paquet cadeau.
C'est de la stat.
Le côté où on compte tous les abonnés, ça a toujours existé.
Ouais,
mais on invite les jeunes du FC Obersulzbach.
Ou les élèves du professeur Riss.
Ouais. Ah, putain, saloperie.
Les élèves ou
le professeur? Mais là, je suis même pas sûr qu'ils aient vendu toutes les places pour Clermont, même une première fois. Hein. Moi, parce que le matin, il y en avait encore beaucoup, et d'un coup, on a une espèce de guichet fermé qui est annoncé en loose day. Ça sent le plan moyen ou le comité d'entreprise de l'ES.
Un mec au Mali
acheté 150 places pour pouvoir dire que
c'est le 32e d'affilée, d'après la doctrine qu'elle
a.
Hein.
Et surtout, tu vois, il y a guichet fermé et guichet fermé. Il y a encore un an et demi, deux ans.
Il y a carton jaune et carton jaune. Oui, vas-y.
Tout à fait, oui. Il y a collaboration. J'ai toujours respecté l'amitié franco-allemande. Ouais. Non, mais t'avais l'époque où, quand la billetterie est ouverte, les gens se ruaient dessus parce qu'il y avait un effet de rareté qui entraînait la rareté, prophétie autoréalisatrice. Là, tu sens que ça c'est vraiment au forceps sur la fin. Et en fait, c'est des phénomènes qui se retournent très vite parce que les guichets fermés des années précédentes, ils ont aussi été entraînés par le fait que justement c'était rare. Et donc il y avait plein de gens qui étaient intéressés parce que c'était rare et c'était un endroit où se montrer, où dire qu'on avait des places, c'était bien. Et inversement, ça peut se retourner.
C'était dissuasif. Ça dissuadait beaucoup de s'y intéresser parce que c'était déjà mort. Alors que maintenant, c'est moins mort, mais ils ne pensent pas y aller. Mais d'un autre côté, ils sont aussi dissuadés par le niveau de jeu. Donc ils ne pensent plus non plus à y aller. Enfin,
les mecs sont cons, ils vont pour le foot, quoi.
Oui, alors
c'est des mecs qui vont racing pour
le foot. Ils y vont peut-être une fois, mais pas deux.
Ouais.
Rejoute. Vous êtes méchant. Hein.
Mais c'était bien. Clermont, on a pris on est invaincu depuis deux matchs.
On peut aussi dire déjà Clermont, c'était les 25 ans de la vieille guerre des UB
14. Ah, mais oui.
Mais oui, exactement.
On peut le dire, ça, les gens veulent savoir.
Non, c'est
avec
vrai.
Un tifo.
Le premier tifo de l'année. Premier tifo de l'année, je crois.
Ouais, exactement.
Et ça, c'est la faute de Blouko, ça encore.
Surtout la tribune ouest, en plus, c'est impressionnant. Hein. Les vieux, ils ont bien bossé. Hein.
Ouais. Par contre, ils sont vieux. Hein.
Pouh. Wow. Ah, des mecs qui ont déjà vécu McCormack, hein, 98, c'est quoi? C'est en plein dans McCormack, ça? Ça, c'est des mecs qui étaient pro McCormack.
Ouais, je pense, évidemment, McCormack.
Ils ont scissionné pour faire.
Saucissonné, à l'époque.
Après, il y avait la chapelle d'Ilali, je me souviens.
McCormack, non, c'était Savicevic, Boban, Klisman. C'est tout ça qu'on voulait. Hein.
Bon, allez, retour. Là, vous voulez parler de vrai football, parce que là, le match de l'année.
Bah, Brest.
Brest.
Ah bah oui, Brest.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à Brest?
On a perdu le toit.
Et nous, on a déjà joué à la Méno avec un toit qui était pété. Hein.
Tout à fait.
Ah ouais, c'était quoi, un feu d'artifice?
Non, c'est le feu d'artifice de la montée.
Ouais, c'est ça.
Contre.
Il a juste pris feu.
Hein. Ne parlez pas de ces trucs de sinistre mémoire. Hein. Je voulais dire tous ces hordes qui fêtaient.
Non, moi je me souviens juste de fêter la montée. Et à un moment, il y a Louis qui dit il y a le toit qui brûle. Et là, tout le monde se retourne. Ah ouais, putain, c'est vrai.
Alors qu'à Brest, ils ont dit il y a le toit qui s'envole.
Donc pas de toit, pas de match.
Alors qu'on aurait pu inverser le match, c'était une hypothèse.
Oui, c'était compliqué logistiquement parlant.
Ah, je pense qu'il y avait un concert de Johnny.
Ouais, les stadiers, les secours.
Non, puis on aurait pas pu faire le guichet fermé du coup, parce qu'elle a refusé.
Ouais, si tu joues le jeudi soir à 17h, ça aurait été plus difficile.
Du coup, on a eu une trêve internationale plus longue que les autres.
Ouais. Mais on a fait une.
Patrick a pu bosser sur les schémas offensifs préférentiels.
Les flux.
Tu as lu le même article que moi, toi.
C'est Greg qui me l'a évoqué avant le match et en se disant on va voir ce qu'on va voir.
Donc forcément, si on a eu plus de temps.
Oui, on a fait d'abord une opposition à la place du match contre Brest.
Oui, en interne, à huis clos.
Strasbourg 1 contre Strasbourg 2.
Ah ouais, ça, je fais ça dans Football Manager, on est obligé de le faire. C'est super chiant.
Alors, on ne sait pas de qui.
L'équipe a
oublié. C'est les autres, c'est les autres qui ont gagné.
Ils
ont
joué contre les super vétérans. Tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est les vieux qui ont gagné, c'est ça.
3. Le milieu de terrain à Oulu Persic a gagné le match 3-0.
Ouais.
Surprenant.
Étonnamment.
Ouais. Et ça se ressent tout de suite dans la compo.
Mais il est tout
puisque Sissoko a été. Publiquement nommé pour sa super semaine d'entraînement. Et
donc il était sur
le banc.
Évidemment. En fait, il ne faut pas être nommé parce que c'est que tu joues pas. Quoi.
Ah, c'est comme à la Starac.
Comment vous gérez ça d'ailleurs à Football Manager si vous jouez? Quand tu as un joueur qui n'est pas bon, moi par exemple je joue avec le Racing, je ne le faisais pas dans le temps mais maintenant je suis obligé. Et par exemple, Persic sur la version de l'année dernière, il était très bon. Et toi, tu sais qu'il n'est pas bon. Et donc tu ne le mets pas, même si dans le jeu il est bon. Mais tu vois qu'à l'entraînement, tu as à chaque fois super entraînement de Jean-Pierre Persic, super, super. Tu le félicites à chaque fois, mais au bout d'un moment, est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous jouez pas Football Manager, j'ai l'impression que je parle à des gens.
Ah, tu fais comme. Patoche a dit qu'il ne fait pas de loft. C'est-à-dire qu'il les fait s'entraîner.
Oui.
Et quand il y a la feuille de match, ils disent bon, les mecs, vous pouvez passer en loge, il y a des bretzels et du crément, et voilà.
D'accord.
C'est tout.
Non, je pense qu'il leur explique que le match s'est survendu, tu vois. Ce qui est important, c'est de faire des bons entraînements.
Ouais. Et de toucher son salaire.
C'est ça.
Bon, ok.
Je
vais pas partir avec un conseil, d'accord.
Non, mais je n'essaie pas de soutirer des conseils en même temps.
C'est le plus gros salaire du club, là. Marc Keller te dit de l'envirer.
Et donc, on, trop vieux.
On se présente donc face à l'Olympique Marseille, donc un peu le match de l'année, hein, d'habitude.
Oh, hein, voilà,
les 20 ans de la victoire, c'est ça, c'est ça.
Le 4-1, ouais,
le 4-1 qu'on fait. C'est pas les 20 ans,
d'ailleurs. Si, t'as une
verdure de sueur de Martins.
À quelques semaines près, ouais. En
2003. Ah oui, d'accord.
Avec Louboya, tout ça.
Louboya, le pomme. Ouais. Ah, et donc, on fêtait bon, l'anniversaire. Et là, à l'époque, c'était le match de l'année. C'était la folie. Là, il y avait un vrai guichet fermé. Là, les gens étaient prêts à tuer pour un billet.
Ah, bah complètement, oui. Ouais.
Et tous les matchs de Marseille, même si tu remontes à 93 ou.
Et on parle de
92, le Dorn, on a un peu évoqué.
Le 2-2 avec Jean-Jacques Etamé,
ouais. L'armée de footix qui ont les deux maillots en dessous. Voilà, tu dis, première mi-temps, je suis bleu, en deuxième mi-temps, je suis bleu turquoise, et ensuite.
Ça dépend du match.
Voilà, ça dépend du match. Bon, cette fois, on n'a pas senti cette.
Ah, mais il y avait.
Monter. Bon, parce qu'il y avait 3 semaines sans match, mais la veille, t'avais des gars. Mais on joue Marseille demain.
Oui, c'est ça. Vrai. Mais c'est un peu ça, mais il n'y avait pas
ce. On y va,
mais moi-même, j'avais pas cette montée d'excitation pendant la journée, tu vois.
Parce qu'il y a l'aura de Strasbourg qui a baissé et l'aura de Marseille qui a baissé aussi.
Non,
c'est pas la même chose que.
Tu dis aura, c'est le niveau de jeu ou c'est le.
C'est ça, aura des papas. Ouais. Non, mais oui, non, c'est pas la même chose que quand tu joues Boli et Papin, tu vois, dans les années 90. Quoi.
Ouais,
ou même quand tu joues Thauvin et Payet, quoi, c'est quand même des.
Je peux vous confesser un truc? Est-ce qu'on venait à confession intime?
Dans les années 90. Est-ce qu'on peut faire une petite lumière là? On fait une lumière là.
Dans les années 90, au début des années 90, mon père est venu et il m'a ramené un ballon, genre le Tango, je sais pas quoi, enfin le ballon Adidas de l'époque. Dédicacé par toute l'équipe de l'Olympique de Marseille qui était venue à Landersheim, tu sais, visiter Adidas. J'étais chez moi. J'ai un peu honte, mais je le.
Ouais, c'est quand même une belle remise.
Bah, en même temps, l'OM du début des années 90, c'était un peu les chouchous de la France. Hein.
Il y avait Chris Vanel.
Surtout que le Racing n'était pas en jeu.
Je crois qu'il y a l'autographe de Chris Vanel.
Ah, ça, c'est pas mal quand même.
Mais c'est quasiment la seule équipe qui a atteint le statut des Verts de synthé. C'est-à-dire où beaucoup de gens ne voyaient pas la différence entre la problématique d'être à la fois supportable de leur équipe et de l'OM ou synthé. Enfin,
t'avais 8 mecs qui étaient dans l'équipe de France ou c'était un peu l'équipe de Platini. Tu sentais que c'était pas loin, mais.
Ouais, et puis surtout, ils mettaient des trempes en Coupe d'Europe
Donc c'était
les gros clubs étrangers.
C'était surtout le problème, parce qu'à l'époque, c'était l'événement. Alors que là, sur ce match-là, effectivement, tout le monde s'en balèque. Et donc 33e guichet fermé de la saison, pas de consécutif là. Avec du monde, beaucoup de monde au guichet.
J'ai trouvé qu'à un quart d'heure de la fin, quand j'ai pris ma place, il y avait beaucoup, beaucoup de places vides, mais parce que, oui, problème d'écoulement pour rentrer. Ouais. C'est que les gens sont nés un peu tard parce que le schéma du samedi soir est plus vraiment
Mais samedi soir, 21h.
Exterminé par la Ligue avec ces fameux matchs.
Qui en plus te permet de faire en fait quelque chose avant.
Ouais, je pense qu'il y a tellement de choses avant que tu t'oublies de venir au match.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus plus tard parce qu'ils ont eu peur des bouchons. T'as eu beaucoup de gens qui ont peut-être passé une journée au marché de Noël pour ensuite aller au match. T'avais tous les Strasbourgeois qui ont débarqué un peu à la bourre. Et donc le fameux côté Marc Keller, on ouvre les grilles 3 heures avant, les gens viennent manger une tarte flambée. C'était Macache ce coup-ci. Quoi. Surtout alors, en plus, il là, est un peu moche et froid.
Information aussi, investigation, on va dire. Ouais. Moi, je vais prendre une tarte flambée à la mi-temps. Personne.
Ça, c'est vraiment le syndrome de la crise.
Là, ça inquiète.
Ça, c'est inquiétant. Alors qu'ils n'ont pas bossé autant au précédent match, là, qu'ils ont bossé, ils ont turbiné au max, là, contre Lens.
Je suis allé, là, j'ai récupéré, bon, j'ai acheté mon ticket à flambé, là. Et je me dis, ah putain, fais chier, il va y avoir du monde, j'arrive. Le mec, il me dit, il y a personne, paf. Genre direct, je suis arrivé, le mec il a pris mon ticket, il m'a collé une.
Du coup, t'as demandé à être remboursé parce que c'est pas la Meno Experience.
J'ai pas attendu. En plus, il faisait tellement froid que le temps de monter.
Ça, c'est un signal faible, tous ces petits signaux faibles là. Créés par le truc de marketing vont dire à quelle heure il se passe quelque chose. Un mouvement de feu.
Moi, j'ai envie de te dire que t'as pris de la tarte flambée à la mi-temps.
Ouais.
Après la première mi-temps. Il y a peut-être des gens qui sont partis, hein, parce que c'était quand même.
Bah, retour dans le futur. Ouais. On a début du match, show pyrotechnique de la LFP.
Et les supporters.
Et les supporters.
Des deux camps.
Ouais, il y avait les gaz lacrymaux. Oh, non, les.
Les gaz lacrymaux.
Les gaz lacrymaux.
Non, c'est contre Sochaux, les gaz lacrymaux.
C'est le lance-flamme, le vieux fusil et tout.
Ouais, ouais c'est ça.
C'est ça, ouais.
Donc, il y avait un show pyrotechnique et du coup, il y avait Yann Bonne, j'ai pas trop compris, mais qu'il y avait des supporters qui disaient qu'il y avait deux. Deux shows pyrotechniques, deux ambiances, enfin, un truc un peu comme ça.
Vous êtes tous des cons.
Mais il y a eu des fusillades dans les deux camps. Ah oui, il y avait les Marseillais aussi qui devaient être limités à 100. Ça c'est rigolo, on peut en parler.
Finalement, ils étaient 400.
Bah, en fait, ils étaient 100. Ils sont allés devant le tribunal administratif pour contester le fait d'être 100 parce que Josie a dit que.
C'est le marché de Noël.
Notre cher Josie, salut si tu nous écoutes, hein, bien sûr.
Bah oui, ouais.
Et c'est le marché de Noël, on n'a pas que ça à foutre, les policiers ils ont autre chose à faire. Donc, du coup, ça sera 100. Le tribunal administratif dit écoute, Josie a raison, ça sera que 100. Et du coup, les Marseillais arrivent à 400.
Ah d'accord, en plus
ils ont pas tenu compte de ce que je vous
disais. Bah, en fait ils ont porté plainte pour le truc mais ils allaient pas allumer leur bus en attendant le résultat du qui était la veille du match.
Donc ils sont pointés à 400.
On l'aura ouvert.
On peut saluer quand même la présence d'esprit de la personne au niveau de la sécurité qui s'est dit bon plutôt que de rentrer 100 dans les C300 dehors, on fait rentrer les 400.
Plutôt vendre 400 places.
Voilà.
Ah, Marc Keller,
il s'est rendu parc d'attraction.
Et donc du coup, ils sont quand même plus en sécurité d'avoir les 400 mecs dans le parcage en
fait,
d'avoir les flics que
d'avoir avec 300 mecs qui tournent autour du
et
stade.
Du coup, et donc du coup, bah, ils auraient pu être complètement débiles hein, et dire
on vous envoie.
Règlement, c'est le règlement. Le tribunal a dit 100, c'est 100.
Et les Marseillais ont pu rentrer à 400.
Ils ont préféré dire on ne sait pas compter.
Du coup, finalement, ça c'est.
Cela dit, avoir un compte un peu approximatif avec des Marseillais, tu vois, c'est.
Ouais.
Alors, il sera donc la personne qui a décidé sera juste parmi les justes. Il a sauvé 300
parmi les nations.
C'est ça,
exactement. Mais bon,
il a sauvé des fossés. Hein, quoi.
Et du coup, le match a pu démarrer avec un Strasbourg qui a démarré presque sur les chapeaux de roue. Marseille avait des. Enfin,
il y a déjà une grosse occasion de
Marseille. Il y a close déjà.
Il y a close dans la deuxième minute. Et après, on enchaîne, je crois, deux occasions. Et on marque, je crois.
Cinquième minute.
Sixième.
Et premier but. Un premier but en première mi-temps.
Oui.
Au 12e match de la saison. Incroyable.
Et sur le coup, j'ai même pas capté.
Est-ce que vous avez une idée de la distance qui le séparait de la ligne de but? Je parle des mégas au moment où il marque.
2 mètres.
J'adore ce site. 4
mètres.
4 ou 5 mètres.
2.
5.
Ah, il était dans les 6 mètres.
Face à un but vide.
Oui, il a poussé la balle.
C'est bien. De son mauvais pied.
Qui avait passé la balle?
Il est gaucher?
Bah, apparemment.
On sait pas, personne ne sait en fait. Mais en réalité, personne ne sait.
Sa mère se demande encore.
Ouais.
Ah, c'est comme Delaine, on sait pas trop
qui est gaucher. Qui fait la passe à Kevin Gameiro juste avant?
Gabriel.
Borges.
Angelo Gabriel.
Donc il est crédité d'une pré-assist.
Alors, oui. Oui.
Ok, assist.
Exactement. Mais comme il y a d'abord frappe de Gamero.
Est-ce qu'il aura un badge par le gardien? Assist,
ok, sur glace, il aura une assist.
Ouais, c'est ça, ok, assist.
C'est Gamero quand même qui fait l'essentiel de l'action. Parce que
c'est mais c'est Gamero démarre. Qui fait tout.
Non, bon, Gabriel fait quand même la rupture. Après, il a fait un match horrible. Et, il est vraiment en voie de salimarachisation. Mais
ça c'est dégueulasse.
Bah, c'est dégueulasse. Je sais, bon, lui au moins il a pas un œil qui dit merde à l'autre, mais c'est à peu près
c'est le destin qui l'attend.
Ouais, exactement. C'est à peu près sa seule bonne occasion du match, c'est qu'il fait un peu une rupture avec un raid en diagonale là,
oui,
où il élimine un ou deux gars. Et pour la seule fois du match, il donne sa balle au bon moment.
Dans le bon timing, dans la course de Gamero,
il y avait au bon joueur. Mais voilà, c'est ça.
Il avait tout le timing.
Bah, Gamero a cette capacité à se mettre entre les lignes, à se mettre dans le bon intervalle
au début aussi. Et à déclencher vite. Gamero, il a ce côté, ouais, genre, le type se retourne, il frappe instantanément.
Ce qui fait que le gardien ne peut pas faire autre chose que de lui renvoyer. Coup de bol, ça retombe dans les pieds de Gamero. Et il
Gamero.
La met en retrait.
De Gamero,
de Gamero qui remet après à Emega et qui la marque dans le but vide. Et du coup, de nouveau, feu d'artifice de au bord du terrain.
Ouais.
Deuxième
c'était
couche.
La folie.
C'était la folie.
Nouveau napalm. Heinz qui a ramené la bonbonne. Tu peux y aller.
Et là, on se dit,
c'est l'autoroute.
On sait pas comment ça se passe.
On a
jamais marqué.
On n'a pas l'habitude de
dérouler. Ça se trouve, c'est
le déclic. On n'a pas l'habitude de mener, tout simplement.
Et là, c'est le drame.
Non, il y a quand même eu la fameuse célébration que Michel Knaki, que nous saluons, à l'opposé du stade, en nord haute, alors que Emega est allé en sud, je sais pas où là.
Au quart de virage, sud-est.
Michel a capté la célébration. Genre main sur les oreilles, ou je sais pas quoi, l'histoire des singes, je vois.
Oh là là, les singes, mais ça va, hein? Mais t'es dingue ou quoi?
Non, mais.
On est en 2023.
Mais c'est bon, il a joué contre Gibraltar, les singes de Gibraltar.
Ouais,
putain. Et il a. Voilà, célébration, j'entends pas les critiques.
Non, c'est plutôt DJ, tu vois, le mec, il met la main sur l'oreille et voilà. Il mixe, quoi. Non,
il avait une main,
mais il avait peut-être juste froid aux oreilles aussi, hein.
Il avait
peut-être.
S'il avait les gants.
Ou peut-être. Non, mais ça, c'est un peu. Quand même un des rares événements du match, parce que Emega est un peu
chahuté par le public.
Tout le monde l'a dans le pif depuis le début de la saison.
Il est chahuté par le public.
Il a mis un but, malgré tout, il a quand même suscité bon nombre de réactions négatives en dépit de son but. C'est quand même rare.
Par ailleurs, il fait un mauvais match. Hein.
Non, voilà. Mais sûr. Donc quand il marque le but,
met un but, mais on retient son mauvais match. C'est comme quand on gagne, mais qu'on retient le match en se disant on n'aurait pas dû gagner.
Oui, mais
ça nous arrive pas.
C'était là. C'était la sixième minute.
Ça nous au début de saison.
Il s'était pas encore fait huer. Il marque le but. Il me semble pas. Alors moi qui étais là, hein, j'étais là.
Ah non, mais lui, il a un historique. Il se dit, attends, moi j'ai de la mémoire. Hein.
Non, mais de la mémoire, mais il a jamais rien fait. Il s'attend à quoi? Ok, il a mis un but à 5 mètres. Moi, je suis là.
Il se dit, je suis là. Acclamez-moi.
Mais il a pas été hué. Est-ce que là, sur le
tout
but.
Tout au début, il n'a pas été hué.
Sur le but,
il a même pas été hué quand il est sorti du stade. Parce qu'il a été évidemment remplacé avant la fin du match. Alors que les autres matchs, quand il était sorti, il avait été hué ostensiblement par le public. Là, pour le coup, il y a même eu des applaudissements. Il y a une progression.
Est-ce que c'est un rapport avec la situation politique en Pays-Bas?
Au Haut-Karabakh.
Et au Haut-Karabakh, absolument.
Il est quand même déjà ciblé.
Oui, il est ciblé, mais il ne devrait pas faire ça. Il est con, quoi.
Là, oui, il génère encore plus de réactions et compagnie.
Pour qui il se prend? C'est un buteur, deux buts en 50 000 matchs, dont un à 5 mètres. Je sais pas ce qu'il est et là voilà, il met un but,
c'est un avant-centre, comme ça a été dit sur le YouTube, un avant-centre, AVENT, donc un avant,
c'est marrant par rapport à l'avant, tout ça, Noël, marché Noël,
sinon
le constat, le silence après la blague, joueur, est encore la blague,
c'est un joueur qui nous laisse vraiment pantois, parce que
mais c'est incroyable,
il a coûté 13 millions. Ça ne veut pas dire qu'il vaut 13 millions. On a mis 13 millions.
Non, je te confirme qu'il ne vaut pas 13 millions.
Et finalement, tu as pu se retrouver avec ce gars-là. Motiba paraît ultra compétitif à côté. Gamero a l'air de ne pas avoir 37 ans.
Non, mais.
Et voilà, il se bat pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été relevé par tout le monde. Il y a pas mal d'occasions ou d'actions où il a le ballon.
Ah, il laisse tomber, oui.
Et alors, il a juste, continue un peu son effort. Non, il remonte. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas l'ADN du Racing.
Tu sais que ça s'appelle le labouli. Quand tu as cette chose qui tombe sur toi où tu ne peux plus faire l'effort, tu peux plus aller de l'avant. C'est pas de la fatigue, c'est pas physique.
C'est labouli.
C'est le fait de plus avoir de volonté, plus.
Mais le renoncement, c'est pas l'ADN du Racing, ça.
Non, mais là...
C'est ça. Ouais. Nous, on n'était pas sur les étudiants un peu fainéants qui rentrent par leur mémoire. On était plutôt sur des types qui, au forceps,
le dernier jour...
Le dernier jour, sont à 6h du mat devant le copy shop pour sortir les derniers exemplaires de leur mémoire. Qui,
Dimitri Lina, oh, purée,
ils ne savent pas lire ni écrire, mais ils rendent le mémoire.
C'est ça.
Ils ont transpiré jusqu'au bout, tu vois, à la cafette, avec des gars comme Bahoken.
Bahoken, moi, je l'ai eu dans le pif tout au début en national, et finalement, il a progressé au fur et à mesure.
J'annonce que Lyndon Dykes vient de marquer pour Queen's Park Rangers en direct 1-0 face à Stoke City. Si jamais vous avez mis des paris,
c'est bien plus intéressant que la Ligue des Champions.
Ouais, tout à fait. Ah oui, j'ai pas d'alerte sur la Ligue des Champions. Ça, c'est lâche. Mais oui, donc c'est un scandale. Enfin, c'est pas un scandale, mais c'est nul, c'est pathétique, c'est mains sur les oreilles. Excusez-moi. Mais...
Mais du coup, on menait 1-0 quand même. Qu'est-ce qu'il attend, c'est quoi la suite?
Non, là, je pense que c'est la réaction d'un jeune joueur qui a voulu marquer le coup, genre j'ai marqué les trucs.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu vois.
Je pense qu'on s'en fout. Si met 10 buts, on s'en foutra. Si met 0 buts, on s'en foutra aussi. Et l'important, c'est qu'il mette des buts, le reste.
Oui, mais sinon.
On peut se mettre les mains dans le cul s'il marque un but.
Au contraire, il faut qu'il se mette les
mains. Pascal Nouma.
Non, mais on se fait tellement chier que c'est le seul sujet sur lequel on peut parler.
Non, mais le mec, il vient de Bundesliga autrichienne. Il a fini quoi à 10 ou 12 buts?
Non, 8.
8 buts la saison dernière en Bundesliga autrichienne.
C'est moins bon que
Mario. En jouant, j'imagine tous les matchs en Bundesliga autrichienne, titulaire à Graz. Faut pas s'attendre à ce que le mec il score 15 buts cette année. Hein.
Alors justement, il doit se.
Il est content.
Il doit se mettre.
Il a une très haute estime de lui-même et
mais
il s'attend.
Mais ça, justement, ça passe pas. Donc ça, on va pas le louper au virage.
Je te confirme que le public ne va pas le louper.
Ça, moi, j'ai hâte qu'on le désosse au fur et à mesure.
Putain, mais quel vieux. Le mec sur France, bon, après, on le cadre centriste et tout, machin, etc. Et là, il y a des gens, ouais, c'est bon, là, avec sa caravane, la néerlandaise, on va le désosser. Et puis ces connards, là, sur les routes, on peut pas les doubler, franchement.
Puis leur fromage, il est même pas bon.
Ouais, bah voilà, quoi. De toute façon, j'ai toujours détesté Dave.
Bon, sur le coup, j'étais déçu parce que j'avais dit un peu à cantonade aux gens autour. Aujourd'hui, c'est le match du Vera d'émission. Donc, je me suis dit, les gars, voilà, vous relayez quand je lance le Vera d'émission. Alors, putain, j'ai jamais.
Toi, t'es la cinquième colonne, quoi. Voilà. Toi, t'es le mec.
Ça, en train de...
J'ai mal à ma France, quoi. Tu souhaites l'échec de ton pays.
Ouais, je souhaite la victoire de la France.
C'est comme la première mi-temps du Racing, il faut enfoncer plus.
Exactement.
Bon, là, on s'est fait enfoncer le reste de la mi-temps.
Alors, c'est ça. Là, on peut continuer. On s'est fait
continuer,
enfoncer.
Bah, globalement,
inexistant.
On a vu une équipe de Marseille qui joue au foot. Hein.
Moi, honnêtement, on voit une belle équipe de Marseille en première mi-temps.
Sur 30 minutes de la première mi-temps, du coup.
Non, mais même pas.
Avant la surface. Font des bons enchaînements.
Bien au fond, on n'est pas peur.
Non mais même, attends,
quand on
suis pas ta mère.
Encore plus.
Au moins deux spires.
Non mais c'est
important. Spire.
Tap.
Là t'es mal.
Tu
coules
Spire. Oui, bien sûr.
Là tu peux coulisser normalement.
Albert Spire. Mais c'est bon, là, ça va le faire. Jean-Claude.
Putain, c'est Montessori comme truc, c'est beau.
Oh putain, tu vas y arriver un jour.
Parlez.
En même temps, là, on est sur un...
Oh.
Ah oui.
Ah, tiens ça.
Ça sort.
Ah.
Et là, maintenant. Attendez,
excusez-moi.
Attention, là, ça... oh, aïe, aïe, aïe. Oh, là, on est sur un effet Bonaldi de tout.
Oh.
Ah. Le mec, il est enfin arrivé. Ok.
Donc, retour au direct, retour au match.
C'est exactement ça. C'est le type qui tire comme un bourrin sur l'OM, c'était un peu
ça. Est-ce qu'on parle du match de Cels?
Excellent match, franchement.
Mais il sort déjà une balle d'entrée de jeu, non?
Ouais.
Il y a la frappe de Close à la deuxième minute.
Bon, elle est parfaite pour
mais c'est pas
le truc, mais il faut le faire.
Il y a l'arrêt sur Correa qui est absolument incroyable.
Sur le centre, ouais, c'est une galère.
Et Correa, je crois qu'il la met de la cuisse.
Ouais, mais je pense
il la dévie de la cuisse, elle rentre.
Il est à bout portant, donc.
De la cuisse, et il fait un arrêt de mutant.
Cels fait, je pense, sa meilleure saison, et pourtant, il en a déjà fait des très belles. Non, il fait vraiment un match. On a cette chance d'avoir ce gardien qui est, je pense, le meilleur du championnat.
Je peux juste dire, le tir de Correa, à lui tout seul, il a 0,72 de XG. Tellement il avait. C'était sûr qu'il allait marquer.
Plus que le but.
Ouais, c'est impressionnant. Et
le but, ouais, il est plus. Bon, finalement, en fait, il marque sur une action qui est un peu plus confuse alors qu'ils ont eu d'autres actions.
Et parce que celle s'est masquée, je pense.
Oui, celle s'est masquée, c'est clair.
Ça fait poteau rentrant.
Oui, ça fait poteau.
Là, c'est 0,06 de XG, le but de Klaus.
Donc, c'est de la merde, quoi. Mais Mais
je crois pas, je crois pas, ça en dit.
Non, mais Cels nous garde dans le match. On subit énormément. Ce système où les ailiers sont censés compenser avec leurs latéraux ne fonctionne absolument pas.
Tu veux dire défendre ?
Ouais.
Ah oui, oui,
c'est ça. Il y a un certain.
Bon, Delaine, il était à l'envers hein, sur ce match.
Oui, il était pas bon. Il était vraiment pas bon. Ouais, mais,
il est rarement bon.
Angelo.
Il est rarement bon, mais il a fait des matchs où ça allait. Et là, il était. Donc, côté gauche allait pas, et l'autre côté, le pauvre Gilbert, il avait un Angelo qui descendait une fois sur 5 pour essayer d'éventuellement défendre quelque chose.
Ouais, sur une fausse touche.
Oui, aussi. Ouais, non, c'était vraiment. C'était très compliqué quand même.
Et
on prend un but, mais par contre, on prend un but, en plus, c'est dommage, en fin de mi-temps quand même. Ça aurait presque pu
marcher. Non, c'est au milieu, non.
Oui, c'est fin de mi-temps.
Et après,
ils ont été en train de chercher sa place.
Et c'est étonné qu'il n'y ait personne à la 27e minute au Tarflambeau. Mais quand même, c'est fin de mi-temps, quoi. Mais ouais, non, franchement, alors évidemment, c'était un peu improductif, mais moi qui m'intéresse beaucoup aux équipes adverses, j'ai trouvé que on avait une circulation de balles au niveau Marseille, au niveau technique, des contrôles, des jeux en triangle, enfin ça débitait
le tout sans Aubameyang qui était un peu le
Aubameyang c'est un peu les pattes de Marseille
Gamero fait le taf.
Bah non mais Gamero et
Gamero fait un bon match.
Gamero fait un bon match.
Étonnamment, Patrick Vieira est étonné que Gamero, un joueur d'expérience placé entre les lignes, fait un bon match.
Ça avait déjà très bien marché à Rennes.
Oui,
il est
étonné qu'un Gamero a un QI football un peu plus élevé que les jeunes de moins de 23 ans. Alors moi je suis étonné qu'il soit étonné quoi. Tu vois, c'est chacun voit son étonnement là où il veut, mais que le mec se rende compte maintenant au bout de 12 matchs que en mettant quelques joueurs d'expérience, en les faisant jouer à un poste où ils sont le plus intéressant pour l'équipe, et ben du coup ils font des bons matchs.
Mais on reste quand même toujours sur ce débat. Est-ce que Patrick Vieira est vraiment idiot, enfin ou footballistiquement
dispose-t-il des moyens de sa politique
ou alors il joue avec avec on lui écrit des textes en disant non mais je vous assure moi je choisis les meilleurs joueurs, c'est pour ça qu'ils ont tous moins de 23 ans comme le patron l'a dit. Enfin,
en gros, est-ce qu'il est incompétent ou cynique?
C'est à peu près ça, ouais.
Le patoche.
La patte patrouille.
Moi patoche, hein.
Patoche.
Moi je reste.
Moi je suis plus
patoche. Il y a un débat.
Patte, mais c'était pas, c'est pas patte. Pat Le Guen.
Non, patoche. Moi, c'est je trouve. En fait, le problème c'est qu'il s'est un peu, il s'est un peu enrobé, tu vois. Moi mon l'expertise sur ce sujet, c'est mon épouse qui la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était en 2006. Elle l'a vu entraîneur du Racing, elle a fait mais c'est vraiment lui là. Parce que moi on dirait les papas sénégalais au boulot, tu vois. Donc ça fait assez patoche, tu vois. Tu l'imagines assez bien dans l'arrière-salle d'un bistrot au quartier gare,
en train de vraiment, ils mangent souvent.
Avec train de remanger du mafé, quoi.
Ouais, non, il y a un très bon.
La Bissigna.
Non, a priori à l'Elzo, un excellent restaurant sénégalais, je crois.
À l'Elzo.
À côté de la prison. C'est quand les mecs sortent de prison.
Oh là 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 là.
C'est les gardiens. Tout le monde sait que les gardiens de prison sont sénégalais. Tout le monde le sait. C'est un peuple. Non.
Déjà.
Il n'est pas rentré dans l'histoire, mais qui est rentré dans le restaurant sénégalais. Tout à fait.
On recentre sur les capacités footballistiques de Patoche. Parce que maintenant, c'est Patoche. Hein, donc,
c'était adulte pour la table.
Oui, c'est un débat dans des cercles un peu autorisés à penser qu'on a actuellement sur Patoche, Patoche, Patou. Mais moi, je milite Patoche, c'est vrai.
Patouche, patrouille.
Patouche, ça fait quoi faire?
Patouche, ça fait
très sentier, Patouche, patrouille.
Patouche, c'est le chien de berger pyrénéen, tu vois.
Ah oui, ou alpin aussi, le patou.
C'est pas dans les Pyrénées.
Oui, mais il y en a aussi. Mais c'est pour bouffer du randonneur et du loup.
Du vététiste.
Ouais, ouais. Surtout les vététistes, surtout pas s'approcher.
C'est des chiens nourris aux vététistes.
C'est français avec
donc Patou, non.
Patos, pas encore.
Non, Patos, mais non. Patos, c'est
un peu. Non, Patos, tu vois.
Patos, c'est quand il sera à 6000 équipes de.
S'il finit le 0-6, tu vois.
C'est plus dans le genre de simulation, ça.
Patos, c'est 20 kilos de plus. Déjà,
mais moi, je prends un pigon. Mais toi, tu prends quoi?
Ça, c'est effectivement, c'est l'immigré qui est devenu raciste, tu vois. Ça, c'est le meilleur.
On s'en fout de ce match.
Non, alors,
donc là, on est à la mi-temps, on est un partout.
On est à la mi-temps.
On est à la mi-temps.
À la mi-temps, il n'y a personne. Ça,
et là, tu dis à ton pote Patas, putain, la gratitude, elle est pas mauvaise.
Elle démarre la deuxième période, et là, hop, c'est pas le même match, quoi. Bon, déjà, elle démarre par des tirs ratés de Veretout et
alors, au tout début, l'OM a quelques occasions. Parce c'est que, genre, on foire un engagement monumental, notre engagement là.
À la Le Scornet.
On envoie la balle et ça termine 20 secondes plus tard, occasion pour Marseille. Alors, ça, c'était là, je me suis dit, on est parti tout de suite sur un gros tempo.
De Veretout. On dit Veretout, Vertout ou Veretout. Bon, on s'en fout. Allez,
en tout cas, on dit Patoche.
Il était à la Coupe du Monde il y a un an. Tu te demandes que.
Comment
miracle. Ouais. Et mais il y a toujours
un miracle qui s'appelle Orio Didier Deschamps.
Quand tu joues à l'OM,
qui s'appelle Orio,
son agent
Bernès.
C'est surtout ça. Et les autres étaient blessés. Et donc ouais, ça commence par une occasion de Marseille et après c'est pareil, ils deviennent mais alors amorphes.
Un coup de la boulie.
Je sais pas. La boulie totale.
Je sais pas s'il y a une histoire de jus d'orange dans les vestiaires comme à la grande époque. Parce qu'il y a eu Rennes,
la rosée arrosée.
Est-ce qu'il y avait de l'ammoniaque et Clara Morgan dans les vestiaires? Enfin, je sais pas. Mais
force est de constater que le Racing tient la distance. Ça, ça sent un petit DDA là. Le Racing tient la distance.
Ah, oui. Ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Bah, il court pareil du début à la fin du match. Ah, on a du jus alors qu'on n'a pas un banc de fou. On a plein de joueurs
dans notre staff éclectique qui vous avez vu la photo d'équipe où il y a plus de staff que de joueurs. Hein, c'est assez sympa. Et ben les préparateurs physiques et tout, bah visiblement ils assurent. Et ils assurent.
Ah ouais, c'est bien.
Non, mais ça, il faut par rapport à la dernière.
Regarde, là, Bakua, bon exemple. Mec, déchirure à l'ischio.
Il perd sa jambe. Il lui reconstruit une jambe en 4 semaines.
6 semaines d'arrêt. Le mec, 10 jours après, il livre le super deuxième mi-temps. Il frappe sur la barre.
Il
déchirure à l'ischio, le mec, en 10 jours, il revient.
Parce que dans le consortium Blueco, ils ont une petite biothèque aussi. Tu vois.
Ouais, je pense. Alors, le mec, il s'est soigné avec du placenta de l'animal rare, de narval.
On a une question Minitel.
Sur ce sujet, précisément, on a une question Minitel. Rocoras. Sur le site racingstube.com.
Excellent site.
Le 26 novembre à 8h24, dans le mec un dimanche à 8h24 pour poser une question
sur. Il a des gosses.
Il a mis un réveil.
Ou alors il revenait de la soirée VG.
C'est possible. C'était pas très VG à la soirée VG, à mon avis. Mais on a combien de personnes dans le staff de Patoche, je sais pas, PV il a mis, préparateur adjoint, etc. Comparé aux saisons précédentes, est-ce en augmentation? Alors à tort.
On en a beaucoup. Sur la photo, c'est incroyable, mais j'ai pas compté.
Moi, j'arrive avec.
Avec les mecs à la vidéo, ils sont 3-4.
J'arrive à éviter beaucoup de monde, mais attends, j'ai pas encore essayé.
Ouais, donc, on dirait oui, il y a beaucoup de monde.
Rien que sur la vidéo, ils sont 3-4 sur la photo.
D'accord, on est bon. Hein.
Il y a la diététicienne. Ah ouais, Céline Distel qui a fait 300 mètres.
Céline Distel,
non pas Sacha. C'est la fille de Sacha.
C'est la fille de Sacha.
Toute la pluie semblait sur moi.
Puissance et gloire. L'incendie à Rio, tout ça. C'est ça, en fait, l'incendie à Rio, c'est une chanson sur
Gabriel.
Donc,
ouais, il y a 3-4 à la vidéo, il y a la diététicienne, ils sont 4 kinés, ça, c'est sûr.
Ouais.
Et après, les adjoints,
il y a
les deux
Eric Ramsey.
Il y a les deux anglais, il y a le Scornet, il y a Kuntz.
Julien Stéphane encore.
Il y a 4 adjoints foot.
Ouais, il y a Feigenbruggel qui doit avoir un assistant maintenant.
Il y a,
un gars qui a envoyé une candidature pour faire une alternance. Ils l'ont pris le 15 septembre parce que c'est gratuit. Tu
vas chercher les maillots.
Tu
portes les ballons.
Mini Killer est ambassadeur.
Ambassadeur, traducteur, intégrateur.
Au Luxembourg.
D'accord. Donc oui, la réponse est oui.
Oui, ça.
On a du monde dans le staff, mais c'est un souhait de l'actionnaire principal. Ça fait partie du staff. On veut des staffs pléthoriques.
C'est une montée en gamme
sur le staff.
Tel que Marco l'a présenté. Une montée en gamme pour jouer la première partie de tableau avec le staff.
Dans 3 ans.
Dans
3 ans.
Pour passer un câble, blablabla.
Mais c'est vrai qu'au niveau du staff, ça, on peut pas non plus dans le projet.
On a des gens qui doivent s'asseoir à côté du banc parce que.
Mais dans le projet, le staff, là ça n'a pas mégoté. Là, ça a mis du pognon. Là, n'importe quel âge, tout ça, 12, 14 ans, 63 ans.
Ouais, après c'est pas les mêmes salaires que les salaires de joueurs.
Ouais, c'est pas idiot.
Juste la question, si Patrick saute, bon, ce qui est encore une éventualité très très lointaine, parce qu'il a toute la confiance de ses actionnaires. Si Patrick saute, est-ce que les autres adjoints qui sont venus avec lui, qui restent?
Bah, c'est classique. Les adjoints foot sautent, je pense.
Ce qui dit les deux Anglais sautent, mais par contre,
la
diététicienne et les kinés sautent pas. Ouais.
Non, mais il reste
généralement
le récune.
Ouais, c'est ça. Le
Schwerpunkt,
comme on dit en allemand, c'est l'entraîneur des gardiens. Parfois il reste, parfois il saute, mais les adjoints
sautent. Eric Merkel, il va pas sauter.
Non, voilà. De toute façon,
1992.
Ah oui, lui, il a
massé. Mais il était parti,
il a massé les cuisses de Didier Mansu.
Il y a aussi un qui était parti à la SIG et qui est revenu. Ils le lisent dans le reportage, il est parti à la SIG pendant quelques années pour masser des cuisses de basketteur pour revenir après au Racing.
Masser des cuisses de footballeur, ouais. Le staff, ouais, bon.
Mais c'est pas vraiment un gâchis ou quoi, c'est pas un truc de l'argent foutu par. Se dire, on a besoin d'un peu plus parce qu'on imagine un groupe plus étoffé, plus qualitatif.
C'est con, mais moi,
on veut faire développer.
J'ai fait deux entraînements, j'ai regardé deux entraînements, j'ai vu deux entraînements cette année du Racing. Et le fait d'être super nombreux, ça rend les entraînements quand même hyper dynamiques. Il y a plein d'exercices, des mecs qui reviennent. Ouais, on peut détacher par exemple un coach, on va dire un adjoint sport, pour les mecs qui reviennent de blessures ou tu vois qui ont des problèmes, on peut le détacher tranquillement, faire les tours de terrain. Il y a des choses qui sont intéressantes et qui deviennent entre guillemets. On est plus dans la modernité 2023 de ce que peut être un club.
C'est plus cohérent avec le fait d'avoir un cheptel de 30 joueurs qu'on souhaite revendre plutôt que d'avoir juste Loré en Kawé qui gueule pour choisir les 11 meilleurs pour
gagner contre. A priori, Loré faisait pas grand chose.
Loré discutait
avec les vieux les entraînements.
C'est Gilbert qui faisait tout.
Gilbert
pas d'adjoint. Oui, c'est lui qui tapait les ballons pour Dropsy, etc. Bon, mais là.
Ouais. Du coup, j'ai une autre question, Staff. Est-ce qu'on enchaîne?
Encore bah ouais, on s'en
de... Pardon. Super Dohu, absolument, sur le site racingstube.com, qui lui nous écrit le vendredi en fin d'après-midi vers 17h26.
Et qui demande. Un after work, je pense.
Parmi tous les membres du staff, hein, on est bien sur le staff, y a-t-il au moins un psy pour s'occuper du mental des délaissés? Percy, Chaolu est le troisième que vous n'avez toujours pas cité. Hein.
Sissoko.
Mais lui c'est pire, il a été recruté pour
ne pas jouer. Il a même pas joué. Donc voilà.
Ça, je crois que c'est du. Je vous rappelle, c'est le capitaine de la Guinée.
On avait quand même un gars.
Le mec, il est capitaine de sa sélection nationale.
Boubacar Kébé, tu vois, qu'on avait pris là, parce que c'était l'époque où.
Exact. Avec Furlan.
T'avais Kamadini qui faisait un joueur, alors du coup, le frère Aginester avait le droit d'en faire un, tu vois, c'était un peu l'école des fans.
Tout le monde a le droit de croquer sa commission.
Ah, tout à fait, exactement.
On avait pris, alors ça c'est l'époque McCormack, on avait pris un joueur qui n'a jamais eu le.
Camara?
Henri Camara. Qui était pas mauvais en plus.
Je sais pas si je dois le mettre dans ancien joueur du Racing. Mais...
Par contre, du coup, à l'époque McCormack, on avait un coach mental qui était Yannick Noir. Quand le retour de Yannick Noir?
On a eu Yannick Noir, on a
Puis
eu.
On la femme à Furlan.
Cécile Traverse.
Ouais.
Et on a eu. Je sais pas s'il est vraiment venu ou si ça, la blague s'est arrêtée avant qu'il arrive.
Ah non, moi je pense qu'il est
de Saïd devait venir.
Et puis on a eu Courbis au téléphone,
sinon. Ça, c'est un coach mental. Coach mental, casino, poker, tout ça. Si t'as un problème avec des voyous.
J'ai parlé avec Pascal, j'ai soumis mon moi,
En fait, je suis pas sûr que nos joueurs qui jouent pas aient besoin d'un coach mental.
C'est les joueurs qui jouent. Ils le vivent peut-être très bien.
En revanche, ils ont des coachs sur leur placement financier, tu vois.
Mais c'est pas mal.
Medikeller.
Donc là, on a fait deux questions militaires, c'est pas mal.
Pas mal.
Bon, on va reprendre le match de Marseille.
On a terminé le match de Marseille. Par contre, il s'est passé quelque chose avant le coup d'envoi du match de Marseille.
Daniel.
El comunicado.
Moi j'étais tranquillement en train de servir des bières dans un local de supporters, il y a des types un peu chelous qui sont avec des tracts.
C'est ça.
Des cagoules et tracts.
Des mecs de la CGT, je pense.
Ouais, voilà, c'est ça, je fais moi le Hamas trop peu pour moi, mon bon monsieur.
Moi Gaza, j'ai aucun avis.
Voilà, c'est ça.
Je n'ai pas d'avis.
Je m'en pète.
Et donc du coup, les ultras ont dégainé un communiqué vachement bien. Qui fait plein de lignes, je sais plus.
Ah, et d'ailleurs, nous allons vous.
Je l'ai dans la poche si vous voulez.
Ah voilà.
Non, mais le communiqué.
J'ai la version.
Et là, vous le voyez pas.
Vous
là.
Voyez, c'est à la télé.
Le communiqué, c'est.
Bah, il faut prendre une voix, tu sais, de prisonnier politique. À tous nos membres, à tous les amoureux du Racing, je vais bien. Ils me traitent correctement selon les normes du traité de Genève.
À Dieu et au monde.
Exactement. Cher papa, maman. Bon, bref.
Je vais mourir. Bref, il y a eu un premier communiqué donc, signé par les ultras qui ont voulu se désolidariser de, habituellement, enfin, de vraiment signer à leur nom le premier tract pour dire que Blueco, globalement, l'idée c'est Blueco n'est pas prévu et ne le sera pas.
Ne sera jamais.
Ne le sera
ce
jamais.
Qui a été bien repris par l'équipe.
Voilà, et oui. De dire que bah, le projet, bah, il pue du cul et que et ça va plus. Et ce tract-là a été tracté à 10 000 exemplaires au stade de la Méno contre Marseille.
Et pas un de plus.
Et ça n'a pas été interdit par Marc Heller.
Il eut, bon. Pu, il eut pu, mais il ne l'a pas fait.
Tim, tiens un petit peu de vin sur le nez. Ah,
c'est mon côté Gorbatchev.
Ouais. C'est vrai, c'est plus aussi. Si quelqu'un veut se faire une tache au vin pour imiter Gorbatchev, je sais pas si c'est Jean-Luc Reichmann.
Et donc,
à quand le prix Nobel?
Et donc, il était gratuit, donc aucun invendu.
Il l'a eu le prix Nobel? Ah, il l'a eu.
Hein, le tract était gratuit. Le tract était gratuit. Mais du coup, le club a autorisé. Peut-être qu'il n'était pas content, mais en tout cas, il l'a.
Ils ont tracté dans le stade ou aux
dans le stade, juste après. À la fouille. Donc, t'as la fouille, t'as le contrôle billet, et juste après le contrôle billet, bah, tu pouvais mal, recevoir
ça.
Le tract.
Ça, c'est pas mal.
Mais en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que fondamentalement, je pense qu'ils en ont rien à foutre.
Ouais, ça doit être ça.
Parce qu'ils auraient très bien pu dire, non, si vous les tractez, vous tractez sur la voie publique, c'est-à-dire avant la fouille.
On peut imaginer que Kuba qui était furieux, mais il est toujours furieux.
Oui,
ça change rien, tu vois. Mais en fait, ça se trouve, je pense que Kélaï s'en fout maintenant.
Bah oui.
Et il y a quelques années, ça l'aurait peut-être fait chier, ouais. Mais là, ils s'en bat les couilles.
Et du coup, dans la foulée, dans la soirée, il y a eu deux communiqués d'autres associations de supporters qui sont sortis. Donc, on avait le KCB qui a sorti son propre communiqué et la Paris Intersection qui a aussi envoyé son communiqué à travers les réseaux, qui dit peu ou prou, qui emboîte le poids
au multipropriété.
Donc, voilà. Donc, c'est.
Équipe de merde, multipropriété de merde.
Moi, je pense qu'il y a trois points de fixation et qui, à mon avis, vont très vite devenir des revendications. Le premier, c'est effectivement la multipropriété. Le deuxième, c'est la présence des dirigeants de Chelsea au conseil d'administration. Et le troisième, c'est cette politique suicidaire qui consiste à prendre que des gars de moins de 23, voire moins de 21 ans. Donc les trois revendications, elles se dessinent très, très rapidement. On veut que les gars de Chelsea dégagent du conseil d'administration. On veut
une indépendance de choix sportif du club, même s'il est multipropriétaire. Si c'est les mêmes propriétaires, tu peux estimer avoir une autonomie de ta gestion et de tes choix sportifs.
C'est vrai,
tu veux choisir. Et en fait, là.
Ce qui nous semble.
En fait, notre choix sportif, il est dicté par le conseil d'administration de Blueco et des directeurs sportifs de Chelsea qui sont à notre conseil d'administration.
Et c'était toute l'interrogation qu'on avait sur Patoche, c'est-à-dire dans quelle mesure Patoche est-il libre de ses choix. Ça, c'est le sujet du bac de philo de l'année prochaine.
Vous avez quatre.
Libre arbitre ou déterminisme.
Ça dépend du salaire.
Est-il libre dans sa conscience, mais tu vois, est-ce que Percy, en gros, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Percy est sur le banc parce que Percy est mauvais, il chie dans la colle,
ou parce
qu'il cadre pas le projet,
ou parce qu'il cadre pas le projet et qu'on veut le faire dégager parce qu'il a un trop gros salaire. C'est la vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que moi, j'ai l'impression.
Mon intuition, c'est la deuxième, mais
mon impression, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il joue pas parce que des fois il est mauvais, mais il joue pas parce qu'il a aussi un trop gros salaire.
Bah, c'est en fait
parce qu'il a 32 ans. Oui. Je sais pas combien.
Je voudrais peut-être revenir quand même sur 30. Les trois axes, les trois piliers. Non, mais c'est important.
Les trois
piliers de la contestation et de ce qui ressort de cet excellent tract des UB. Premièrement, il y a simplement la position déjà éthique de base. Non à la multipropriété, quoi qu'il arrive. Que ce soit Strasbourg, Blueco, ta mère.
Vous avez regardé d'ailleurs les trois derniers du championnat de Ligue 1?
Les cinq
prend par le bas, Lyon. Ouais.
Les cinq sur les six dernières places, c'est
multipropriété. Clermont, multipropriété. Lorient,
multipropriété.
Strasbourg. Mais Strasbourg est avant-dernier. Je sais plus qui est l'intermédiaire entre les deux, mais c'est que de la.
Il y a Toulouse. Cinq sur les six derniers, c'est de la multipropriété, et les quatre qui sont contrôlés par des Américains.
Ça marche bien.
Donc ça, c'est la première chose.
C'est un constat, ça marche bien.
Exactement. Mais moi, je trouve que les trois piliers sont quasi indépendants et en même temps, ils forment un tout. Donc la multipropriété, que l'on soit Strasbourg, Blueco, c'est non. Mais même si on ne peut rien y faire, ce sera oui, on est des losers, on le sait. Mais c'est pas grave, c'est non. La deuxième, c'est qui détient le club là maintenant, le Racing, donc les propriétaires. C'est un deuxième sujet quasiment. Il se trouve que multipropriété ou pas, c'est des connards, c'est des chèvres. Je veux dire, ils ont fait leur preuve. Dans leur précédent championnat, bon voilà, donc on est pas
toujours en cours.
Et ils ont des règles complètement stupides de genre on veut des jeunes, des machins. Ok, ça c'est une deuxième chose. Et troisième chose, bah, l'équipe est hachée par terre. Et ça, c'est le sportif de là maintenant. Alors, je dis ça parce qu'il y a un mec qui disait, oui, mais vous verrez si on est en Ligue des Champions. Je sais plus qui c'est là. Bon, déjà le risque est faible, mais imaginons.
On est en Ligue des Champions et qu'on joue comme Manchester City.
Tout le monde a trouvé ça génial, peut-être. Mais la position pour le sportif, les gens seront contents, mais la position de base reste la même. C'est que la multipropriété, ça restera de la merde.
Qu'on soit champion du football,
qu'on soit gagnant de la Ligue des Champions, qui n'arrivera pas. Détendez-vous tous. Que nos propriétaires soient des génies.
Mais c'est intéressant. Ça même va même plus loin que si nos propriétaires, parce que genre si nous on est les seuls Astérix qui sommes pas multipropriétaires, si tous les clubs sont multipropriétés et tout le monde fait son petit business de transactions de triche un petit peu, bah, ça nous va pas.
Total. Non. Bah non, oui, c'est.
Donc ça va même plus loin que le Racing.
Mais ce que tu dis renvoie, je pense, à un débat qui a traversé les associations de supporters et qui traverse toujours les associations de supporters. C'est il y a assez peu de doutes sur le fait que la multipropriété c'est de la merde. Il y a très vite eu beaucoup de méfiance. Certaines personnes ont voulu davantage attendre de voir, et c'est un peu ce que dit le communiqué des ultras au tout début, genre ok, on veut pas être plus royaliste qu'on voit, donc on accepte de regarder. Et en fait, il y a une vraie crainte au niveau des assos. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Je suis pas dans le secret des dieux. C'est en fait, est-ce qu'on va réussir à emmener le grand public avec nous? Donc, tu sens qu'il y a un genre de riposte graduée. C'est-à-dire, on commence par faire cet été, on fait un communiqué pour dire bon, ça nous plaît pas du tout. Ça nous plaît pas du tout. Mais Marc Heller est responsable. Il nous a donné des garanties, donc nous tenons Marc Heller responsable. Après, on fait une lettre ouverte pour dire, dis voir Marco, ça puerait pas un peu de la gueule ton truc? Tu voudrais pas nous répondre? Marco va sur France Bleu Alsace et dit non, pas du tout, il y a pas de problème. Je vous ai raconté qu'on allait faire le top 8, mais non, on a toujours dit qu'on ferait du tanking au début, qu'on prendrait des
chiffres.
On fait le dos rond. Les gens commencent à se dire, ça pue un peu la merde.
La confiance.
D'ailleurs, la sortie médiatique de Keller, donc au-delà de la radio, il l'a fait aussi dans les DNA, et du coup. Ils ont eu l'interview exclusive, et là, cette semaine, il y a un match contre Marseille, et ça devient quasiment dithyrambique, comme quoi le Racing a fait un match incroyable, et tout ça. Donc, tu sens bien qu'il y a un retour d'ascenseur là derrière. Alors que 10 jours avant, les DNA, ils te chient sur les dents du Racing.
Mais ceci dit, les
Godin en vacances, non?
Je pense que c'est là qu'il a bien bossé. L'équipe aurait pu gagner 8-0 contre Marseille.
Son forfait.
On aurait pu être le Brésil contre Marseille. Ce qui reste que la multipropriété, c'est un scandale.
Mais j'en reviens à mon point, c'est que nous, on en est convaincus. Mais en fait, si effectivement ça avait marché ou si ça venait à marcher, il y aurait peut-être toute une partie du stade qui dirait bon, on va mettre peut-être un mouchoir sur ces histoires et suivre.
Bah évidemment, ça serait les réacteurs.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai regardé les réactions sur les réseaux, tu vois, par rapport à la publication du communiqué, et notamment des fans de Chelsea, enfin des fans autoproclamés fans de Chelsea, donc qui sont propriétés de Blueco, et qui les mecs globalement leur sentiment c'est les mecs vous crachez dans la soupe quoi. Vous crachez dans la soupe, Blueco, les mecs ils ont plein de pognon, ils sont géniaux. Vous étiez quoi avant? Mais nous, avant l'arrivée de Blueco, on était nous-mêmes, on était ce qu'on était. On avait un palmarès, on avait une histoire, on avait des valeurs qu'on a plus maintenant. Enfin, on a toujours les couleurs et les palmarès, mais on a moins de valeurs qu'avant. Mais on était quand même quelque chose, et ça nous allait très bien.
Ouais.
Et pour eux, alors c'est des fans évidemment en carton pâte de Chelsea, parce que j'imagine que les fans hardcore, quand Abramovich est venu à Chelsea, ça a changé, parce que avant Abramovich, Chelsea c'était quand même un peu un club de losers aussi. Qui allait très bien, qui avait été un club à l'ancienne, et quand ces mecs-là ont été rachetés à la fois par un milliardaire russe et maintenant par des milliardaires américains, t'imagines bien que les fans hardcore ne sont plus allés au stade et que maintenant c'est des fans de complaisance de la cité londonienne qui suivent ça. Et les mecs, c'est du genre, ouais, mais celui qui a des résultats sportifs, parce qu'ils ont eu des résultats sportifs sous Abramovich, alors pas sous Blueco, loin de là.
C'est ça, pas là.
Et ben du coup, les résultats sportifs effacent tout. Mais non, ça n'efface rien.
Non, bah, rien du tout.
Tu peux gagner 3 fois la Ligue des Champions de suite. Si t'es détenu par des connards et que t'as un club de connards, tu restes un connard.
Si je veux dire que si tu fais les JO, mais que t'es une dictature, ça efface pas.
Je crois pas. Et ou même si tu
parles de Moscou années 80.
Ah non, je parlais de
Anne Hidalgo.
Non mais là, mais c'est clair. Et je vais te dire même si on n'avait pas de palmarès, parce que t'as cité le palmarès, même si on n'avait pas de palmarès. Et il est pas géant dans le temps de la Ligue
64.
Si, mais même ça,
la Coupe de la Ligue 64.
Et la Coupe des Villes et des Foires.
Franchement, il y a des mecs qui se couperaient une couille pour prendre
qui a, qui a battu Barcelone à pile ou face.
Exactement. Et oui, exactement.
Et la Coupe du Crédit.
Et qui a battu.
Et
qui a battu.
Et le championnat de Dordogne.
Qui a battu le Bayern de Munich à la Marelle. Hein, c'est pas c'est qui alors. Non, mais même si on avait.
Mais au qui, bordel.
Mais si on avait pas de palmarès, ça changerait rien. On était nous avant. On n'a pas besoin de ces merdes.
Mais on était loin d'être ridicule.
Si je, voilà, si je veux un palmarès, je suis le PSG pour la Ligue 1 et je suis pas le PSG pour la Ligue des Champions.
Tu parles du PSG, le mec était pas là en 33 quand le championnat de France a démarré, je veux dire.
Belle année.
Exactement, 33.
J'ai eu des belles choses.
J'ai eu des belles choses. Bref, non, mais tout ça pour dire que il y avait un public qui était un peu attentiste et qui disait en gros, je suis prêt à accepter un moins 10 ans sur l'identité si j'ai un mieux 10 ans de spectacle. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Bizarrement, tout le monde s'est rendu compte que c'était une arnaque. Et là où je trouve le public a une réaction assez saine, mais qui n'est pas encore une réaction radicale, c'est que actuellement la réaction c'est un peu du désintérêt. Quoi. Les gens ils vont un peu mécaniquement, parce que bon voilà, ils ont pris l'abonnement, on ne sait jamais, ça a été difficile à avoir les années précédentes, donc il vaut mieux le garder. Mais tu sens que ça pourrait très vite se retourner et il n'y a plus ce feu sacré. En même temps, les associations, je pense, dosent leur radicalité dans leur expression, parce qu'elles se disent, on n'a pas envie de passer pour les espèces de râleurs impénitents. L'Alsacien, il est quand même un peu légitimiste, comme ça, très respect à l'autorité établie.
Non, mais il y a un équilibre à trouver. Ouais.
Mais c'est curseur.
Et c'est difficile. Et surtout, c'est pas la première fois. Il y a eu déjà, on va dire, un combat frontal contre McCormack, il y a eu un combat encore plus important contre Hidalgo à cette époque-là. C'est pas la première fois que t'es confronté à, on va dire, des actionnaires qui font tout ou n'importe quoi et qui bradent l'identité du club. Mmh. Tu le sais que ce genre de combat-là, c'est usant, c'est fatigant et l'issue est incertaine.
Ouais, donc faut y aller progressivement.
Voilà, c'est quand tu t'engages là-dedans, même si t'as la meilleure conviction que t'es dans le bon, dans le vrai. Bah, c'est compliqué. Là, pour l'instant, évidemment, le projet, il est présenté. Les assos n'ont pas dit grand chose. Là, elle commence à clairement monter au créneau en disant, ça pue du cul, quoi, cette affaire. Mmh. Ça pue du cul. Et on le voit bien. Le mercato de janvier, je pense, sera révélateur aussi de ça.
Ou le non-mercato.
Ou le non-mercato, justement.
Confiance en l'avenir.
Voilà. Est-ce qu'on est en mode, on serre les fesses la première année, vous allez voir, les mecs, à un moment donné, ils vont trouver la bonne carburation en Ligue 1 et, ça va suffire tout juste pour se maintenir et vous verrez l'année prochaine, ça va être génial. Ou bien c'est, on n'est pas trop sûr, on se met quand même une sécurité en prenant un ou deux joueurs en prêt, histoire de terminer.
Je pense qu'ils ont besoin d'aucune sécurité, mais c'est un débat qu'on aura à la fin. Mais en fait, c'est là où ça me déçoit un peu dans l'attitude quand même, on va dire, du public un peu élargi. C'est-à-dire pas forcément le grand public, mais les gens qui gravitent autour, qui vont à la Méno régulièrement, c'est que finalement... On est passé d'un engagement très fort et d'une loyauté extrême envers le club. Et ce qui faisait une des forces de l'ambiance à la Méno, c'était ce côté où, sur les matchs vraiment tendus, le COP avait un vrai relais dans tout le reste. Et t'avais ce stade qui faisait « Oh ah !» qui braillait dès qu'il y avait une décision de l'arbitre qui était vaguement contestable. Et donc on est passé de cette espèce d'intensité folle de tous les Alsacos là, qui sont dans leur stade et qui font bloc derrière leur équipe et qui étaient franchement... Je pense que ça nous a fait gagner les quelques... Ça nous a fait gagner les quelques points pour gratter des maintiens. À quelque chose... En fait, on aurait pu espérer que ce truc-là se renverse et qu'on tombe dans une espèce de radicalité en mode « On nous a pris pour des cons, là, ça va pas du tout votre histoire. » Mais là, en fait, on a plus un espèce de truc lancinant, doucereux, de désintérêt, où les gens se disent « Ouais, je viens quand même, je vais voir si ça marche, là, si le petit Brésilien, il vaut quelque chose. »
Et puis, je fais confiance à Marc Keller.
Ouais, et puis, en fait, c'est ça. Il y a encore ce... Alors, ça se dégrade assez vite, au final. Parce qu'on est passé quand même de Marc Keller, le grand timonier, si Marc Keller le dit, c'est forcément vrai.
C'était cet été.
Et là, beaucoup de gens commencent à se rendre compte.
Mais il a dû faire une sorte d'interview, je pense, lors d'une trêve internationale, peut-être début octobre. Il y a eu une première interview dans les DN, on va dire, je ne sais plus quand c'était, septembre ou octobre. Il a dû
il a jamais autant
refaire l'exercice, voilà. Parce que, voilà.
Pour dire la même chose.
C'est flou, il n'assume pas. Et on a eu de nouveau l'intervention en début octobre, début novembre. Bon, vu qu'on a tellement de trêves internationales, il faut bien meubler.
Ouais.
Donc là, novembre, c'est le truc, j'ai envie de dire, faites confiance.
Ouais.
Là, on est au niveau zéro.
Là, c'est le niveau zéro.
prêt à réfléchir, ferme ta gueule, continue, et dans deux ans, tu verras.
Ouais, mais alors, c'est là où
on sera peut-être dans D2, mais on sera revenu entre-temps, donc on aura progressé.
Et c'est là où il y a quelque chose de pervers, c'est que les gens lui ont fait tellement confiance, tellement longtemps, de façon aveugle, ils commencent à se rendre compte qu'il y a quand même un truc qui cloche, que ça marche pas, qu'il fait pas du tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils y ont cru les yeux fermés que, en fait, quelque part, ils ferment les yeux et tous les jours, ils se disent « Ouais, non, mais va peut-être retourner le truc et tout. Bah, » je sais pas, j'ai presque le parallèle avec, je sais pas, des parents. Leur gamin décide du jour au lendemain de pas aller au collège, là, parce que ça le fait chier et tout. Puis, « Oh, le pauvre garçon, on va le laisser rester au pieu parce que le pauvre, il est traumatisé, puis ça va aller. »
Il a 23 ans,
et puis, voilà. Et le gosse, au bout de 6 mois, il est toujours pas sorti de son pieu. Et en fait, du coup, les parents, tous les jours, sont prisonniers du fait qu'ils lui ont pas botté le cul le premier jour pour le dire bah, « Non, c'est fini, tu vas prendre ton cours d'histoire géo sur la Grèce antique. » Et donc, en fait, bah, du coup, devant leurs potes, ils sont là « Ouais, bah, tu sais que Jean-Kévin, il a des problèmes. » Psychologiquement, c'est difficile pour lui. Bah, je sais pas si mon point, c'est peut-être un peu.
On comprend, non, mais oui.
C'est un peu un parallèle de bistrot, mais.
Il y a un autre parallèle, c'est celui de la femme battue, la femme abusée qui réalise petit à petit.
Là, on va trop loin.
Et tout d'un coup, elle trouve des excuses. Mais ce que je voulais dire, alors que Stoke City vient d'égaliser.
Alors que c'est sa faute.
Les potiers viennent d'égaliser partout. Ce que je me demande, c'est quand Marc Heller part, donc en juin, là. Combien de gens seront encore à dire non, mais il s'est fait abuser. En fait, les intentions étaient bonnes.
Le déni, toi.
Ouais, le déni complet.
Ça, c'est une étape du deuil. Hein.
Ouais, je sais bien, mais quelle va être la proportion des gens qui vont encore excuser Marc Heller ?
Est-ce que ça serait pas le moment de lancer une nouvelle rubrique ?
Ah. Oui. Quelle est Trahison !
Voilà, on est passé de la démission, ouais, réclamée depuis tant d'années.
Oui, tout à fait.
À la trahison. Est-ce qu'il y a trahison de
Ah, il y a trahison.
Il y a énorme trahison.
Moi, je pense aussi. Oui.
Il y a déjà.
Il a vendu le club pour 32 $.
Pour une achat.
Non, mais en fait, c'est même pas le prix où il l'a vendu. C'est que dans tout son discours, il y a toujours. Alors, il nous a sorti ce truc ad nauseam, on a fait des multiples bingo. Il y avait toujours ces deux grands trucs. On a renoué le lien avec les supporters, on est ancré dans notre région, donc ce côté très populaire, et on a discuté avec les collectivités. La réalité, c'est qu'il vend le club.
Personne n'est au courant.
Il claque une énorme truc. Il appelle les supporters 48 heures avant pour leur dire, au fait, les gars, vous êtes invités à une réunion, merci, et vous êtes
vraiment bien.
Allez, bisous, au revoir. Et genre, il envoie un fax à la ville 3 jours après avoir vendu. Au fait,
il faut payer les 100 millions et 160 millions du stade.
Donc là, déjà, le gars, en fait, est pas crédible. C'est-à-dire qu'il est pas crédible pour un sou, parce que tout ce discours qu'il nous a tenu ad nauseam, le consensus, on discute avec.
Honnêtement, j'aurais payé assez cher pour voir les gens des collectivités quand ils apprennent que le club est vendu à un fonds de pension milliardaire américain, alors que eux doivent avancer plus de 160 millions pour
la rénovation du stade.
Je pense qu'ils l'ont eu vraiment super mauvaise.
Bah, s'ils l'ont super mauvaise,
ils mettent sur des radars au covoiturage.
Mais tout à fait. Mais ils sont couille-molle à mort parce qu'il n'y en a pas un qui monte là. Et c'est là où tu vois la puissance.
Il n'y a personne qui a monté.
C'est là où tu vois la puissance d'un mec comme Keller et à quel point il est consensuel. C'est que à un moment, Bogossian, elle pourrait dire c'est n'importe quoi.
Bogossian.
Je mets pas d'argent dans ce stade, j'ai des mosquées à financer, c'est quoi ce bordel?
Mais tu allez, vois, je... allez
ouais, voilà Makelele, Markele ou pas, je m'en bats les couilles, tu vois.
Je pense pas qu'elle dit je m'en bats les couilles quand c'est. M'entends pas les ovaires, à la rigueur, tu vois.
Mais...
mais
oui.
Ouais, mais trahison.
Mais
rappelons-nous. Alors,
clairement trahison. À l'origine de Blue Coup.
Ouais.
Il y a quand même un article qui était sorti dans le Guardian ou
le Guardian.
C'est un truc, c'était en avril, je crois. Il faisait encore. Je rappelle encore, et on voit l'article, ah putain, c'est pas possible. Et là les associations et tout le monde, et les collectivités sont allés voir Marc Heller, ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe?
Quel est le fuck?
Ah,
c'est qu'un dîner.
Dis voir Michel, on a vu qu'il y avait un slip rose dans la poche de ta veste.
Et Marc Heller, et tout le monde le croyait, parce qu'effectivement, c'est Marc Heller.
Ah, pas tous. Il y a des gens comme, tu vois, Kenny, par exemple, qui disait, ah, si c'est dans le Guardian, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est...
C'est un enculé.
C'est sûr, la vente, elle est faite. On peut épiloguer pendant... La vente, elle est faite.
À partir du moment où les mecs se rencontrent, c'est que c'est fini, que ça sort dans la presse, c'est que c'est fini, c'est que c'est fait, et tout ce qu'on va nous mettre autour, c'est pour décorer.
Mais là, Marquina, il a quand même fait. C'est là où la première trahison a lieu, c'est-à-dire qu'il assume pas du tout le truc. C'est non, c'est juste un dîner, j'ai plusieurs pistes. C'est
d'ailleurs, compliqué. C'était pas eux, c'était des associés ou des avocats.
Voilà. Et derrière, quand.
Puis j'ai même pas vu la langue.
Quand 2-3 mois après, ça sort. Ou le truc exactement.
C'est, oh, exactement. J'avais pas le choix.
Là c'est même plus de trahison, c'est foutage de gueule.
Oui, c'est ça. Est-ce que le foutage de gueule est pas pire que la trahison?
Oui, c'est carrément pire.
Ok, bon, Michel, t'as couché avec ta secrétaire, mais assume, ne me raconte pas que c'est elle qui t'a
non marqué, tu vois. Non. C'était dans le Guardian. Ouais.
C'est bon, on va attendre mariage, je peux entendre une fois, ok. Mais n'essaye pas de me foutre de ma gueule, tu vois.
Donc là, je pense que la première trahison, elle est là. Déjà, le lien, il est rompu. Après, effectivement, je comprends, comme tout le monde, tu as envie de te dire,
non,
c'est Marc Heller, non.
Non, pas toi,
pas lui. Allez, il reste, il va quand même faire quelque chose. L'histoire était belle, elle était bien vendue. Hein,
ouais, ça.
Très bien vendue, extrêmement bien vendue, avec la complicité de toute la presse.
Ah, durant l'été, c'était que des mamours, des fleurs, dans t'ouvrir la page, tu sentais la rose et tout ça.
Et après, tu te remets, dans le contexte de Marc Heller, qui est de dire, je pense qu'il est lassé. Il est lassé d'être président du Racing Club de Strasbourg. Il est lassé, toujours baiser la même, ça suffit. Et du coup, il se dit, il essaie de trouver une porte de sortie pour pouvoir refourguer le club. Il sent que, le club est on a du mal à dégager des thunes, quoi. C'est pas l'accord avec CVC, et ça sera peut-être le dernier point qu'on va aborder. C'est pas l'accord avec CVC qui va nous permettre de rentrer vraiment des thunes. Et il se dit, putain, là c'est l'occasion de trouver un mec un peu la poule aux œufs d'or qui a des thunes. Et de...
C'est la stagiaire cet été ou c'est personne, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est là que la culbute dans le local photocopieur ou ce sera personne, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pour le bien du club.
Pour le
évidemment.
Bien du club, évidemment.
Et pour l'hygiène.
Pour le bien de la bonne,
oui, c'est ça, tu sais.
Donc trahison.
Et si sa femme l'imiterait, il l'a seulement à coup de benne. Non, ouais, trahison, complètement. Mais en fait, effectivement, là où il a finement joué au début, mais où ça risque vite de se retourner contre lui, c'est qu'il a mis tout son crédit dans la balance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont pas réfléchi parce qu'il y avait marqué Marc Heller.
Mais je suis complètement d'accord.
C'est ce côté, genre, je sais pas, il y a des marques comme ça qui marchent à tous les coups. Les mecs
sont sortis Keller. Le badge,
ouais,
ou la marque Keller.
C'est une montre suisse, donc ça marche, c'est du Marc Heller, c'est un bas mix, c'est le meilleur.
Aussi avec Désiré, enfin, on disait un peu l'équipe, l'entourage, rien ne changeait. Ça c'est toujours un petit peu défendu par les Blue Coco Boys actuels.
Les Coco Boys.
Rien n'a changé. Il y a toujours Sabrina, il y a toujours Mehdi, il y a toujours Marco, et il y a toujours Richard. Loïc est Désiré et Jean-Luc Filzer, voilà, pour beugler au micro.
Rien n'a changé.
On n'en parle pas de Loïc quand même du recrutement de.
Non mais c'était la version officielle. Loïc a supervisé en
Loïc, c'est sur la même chose que Marc
depuis son photographie.
Au bout de 6 mois, les gens ont quand même compris que
Sylla était venu. Ah. On sait pas trop comment.
Qu'est-ce qu'on recourra? Sylla, c'est-il toujours vivant? Vite, très rapidement.
Oui, il est vivant.
Il va bien.
Il vous embrasse.
Lui, il a pas besoin de psychologue, à mon avis, pour ne pas jouer.
Par contre, le gars qui a mis la ligne d'amortissement dans le bilan pour son transfert, lui, il a besoin d'un psychologue.
Est-ce que c'est 20 millions sur combien d'années?
Bah, 7.
Mais ça, tu vois, c'est un élément aussi intéressant. C'est. Finalement, nous, on est des cons, tu vois. Donc en fait, on pense bêtement que le but, c'est d'avoir une équipe de football qui est là pour mettre ses tripes sur le terrain et éventuellement gagner des matchs. Non, le but, c'est de faire des placements financiers. Et en fait, si tu regardes le profil des clubs à qui on a acheté les joueurs, c'était tous des clubs qui avaient besoin de mettre quelque chose dans leur bilan pour dire qu'ils avaient une créance sur un autre club pour équilibrer leur bilan. Bordeaux, Saint-Etienne, à la limite, ils avaient presque moins besoin de cash que d'avoir une grosse ligne dans leur compte pour dire attendez, il y a le Racing qui nous doit. Et moi, je serais très intéressé de voir les délais de paiement que ces clubs-là, qui étaient à l'agonie, nous ont accordés, versus un club anglais qui achète Bellegarde à la dernière minute où Marc Heller leur dit ok, c'est 15 millions, mais par contre, vous payez tout de suite.
Et donc là, voilà Liban.
Voilà, et donc j'en reviens à mon histoire de cash flow dont on avait parlé dans un radio-show précédent. Eh ben, pendant ce temps-là, tout le pognon, Nous, on n'a pas encore forcément dépensé tout le pognon du transfert de Silla. Par contre, celui de Bellegarde,
on l'a dépensé.
Le pognon de Bellegarde, on l'a déjà encaissé.
La balance de là, en décembre, à mon avis, elle est largement...
C'est ça. Et donc, je pense que ce fric-là, Monsieur Ekbali, il n'est pas en train de le regarder en disant... Et je vais mettre ça sur LDD à 3%. Il est peut-être en train de d'acheter du pétrole russe ou
Et à mon avis, c'est quelqu'un de très compétent dans ce domaine-là et j'ai aucun doute là-dessus.
Et voilà. D'ailleurs, il va faire profiter le Racing de tout ce qu'il va gagner dessus, c'est sûr.
Bien sûr, c'est évident.
Tout ça pour
mais
dire
qu'est-ce qu'on ferait sans lui.
Mais oui. Tout ça pour dire que nous on est catastrophés parce que s'il a joue pas machin, etc. Alors que Ekbali, lui, il voit tout à fait le fait que il a réussi à faire un petit coup financier entre Silla et Bellegarde et que si ça se trouve, ça lui rapporte plein de pognon. Et lui, il voit pas le problème, tu vois. On n'est pas relégable. Les gars, là, ils valent toujours à peu près autant qu'ils valaient quand je les ai achetés. Moi, si les quatre bouseux qui sont au stade s'emmerdent, j'en ai marre. Je suis désolé. J'ai acheté.
J'ai toujours compris au football.
C'est ça, le mec, c'est comme s'il avait acheté 25 stations-service. Il s'en fout complètement de savoir si le pompiste est souriant, tu vois. L'essentiel, c'est que les mecs mettent du diesel dans le réservoir et après balèque.
À un moment, peut-être le football, c'est pas non plus un investissement comme un autre. Est-ce que ce truc ne va pas vraiment, la machine ne va pas se gripper, parce que c'est bien beau d'avoir fait des placements financiers avec des...
Mais évidemment,
un beau tableau, mais derrière, à un moment, il y a des trucs qui veulent se gripper.
Ça peut se gripper quand tu fais des niveaux d'investissement comme ils le font dans leur club principal qui est Chelsea. Ouais. Où là, pour le coup, ils investissent quand même vraiment des thunes, et à un moment donné, il va falloir quand même rentabiliser. Ouais, alors, pas rentabiliser millions, ça avec des trophées, hein, on s'entend. Il va falloir rentabiliser ça sur les trucs où, évidemment, les mecs, ils n'ont aucun intérêt à gagner des trophées, ils sont balèques. Hein. Un trophée, c'est quoi? C'est une pièce de métal que tu mets dans une vitrine. Hein. Ils sont balèques.
C'est une augmentation de salaire aussi pour ceux qui vont décrocher.
Voilà. Donc, mais autant Strasbourg, ça, franchement, ça leur coûte vraiment rien du tout.
Ah bon,
c'est clair et net. Ça leur coûte pas du tout. Mais Chelsea, ça va. Deuxième année de suite, si ils n'arrivent pas à équilibrer un tout petit peu avec
genre, une qualification.
Tu qualifies en Ligue des Champions, tu reçois quand même un peu de cash.
Donc, ouais.
Mais il n'y a pas Ligue des Champions. Parce que tu es en Angleterre. Ouais. Quand tu es en France et que tu mises sur les droits TV.
Bah, t'es mal barré.
C'est vraiment pas la même chose. Parce que
trans, ils adorent.
Le mec est trans, c'est complètement dingue.
On boit de la triple à 9 degrés 5.
Et c'est pas la première. Parce que nous, on rentabilise notre
investissement. Vous avez remarqué? C'est comme les Toblerone.
Ouais, mais sauf que c'est plus comme les Toblerone.
Oui, exact.
Parce que les Toblerone.
C'est comme les Toblerone d'avant.
C'est le Cervin?
C'est le Materhorn.
Oui, le Cervin.
Oui,
c'est le Materhorn.
Pardon, en français, vous
avez dit ça. C'est le Materhorn.
C'est l'actionnaire suisse.
Donc oui, c'est... Ouais, CVC. Alors, on avait titré l'arnaque CVC, l'avenir, trois petits points.
Alors ça, je pense que c'est vraiment le...
L'arnaque du siècle. Le marché au carbone, là, la série sur Canal+, c'est qui va jouer Vincent Labrune?
Avec les mecs de Belleville, là, mais cette histoire est fascinante, hein, parce qu'il y a un documentaire Netflix aussi qu'il faut voir. Hein.
Sur Labrune ou sur la carbone?
Non, sur l'arnaque au carbone. C'est le sentier en 5 fois pire. Hein. Et c'est vraiment dingue.
Et profitez-en pendant qu'il y en a encore un ou deux de vivants parce qu'ils sont pas.
Ah, bah il y en a déjà plein qui se sont fait dessouder. C'est dingue, ils sont. Mais
le Manaki ne profite jamais, c'est la moralité de Radio
Il y a deux documentaires Netflix sur les arnaques qui valent le coup. Il y a celui-là et il y a Fire, le festival qui n'a jamais eu lieu, où les mecs avaient monté un festival aux Bahamas complètement bidon avec Ja Rule et où les types se sont retrouvés à dormir sous des abris de premier secours en pleine ouragan.
On est payé genre 15 000 balles la journée,
15 000 balles, un truc VIP. Ils sont montés dans un charter, il n'y avait pas un seul groupe et ils ont pris la flotte, ils sont rentrés. En vrai, celui-là, il est monumental.
Ça ressemble un petit peu à Blueco l'arnaque.
Tout ça pour dire, effectivement, tant qu'on
est sur la thématique
de l'arnaque. La brune, CVC, c'est quoi?
C'est un fonds d'investissement. Bah,
ils viennent d'où? Est-ce que ça serait pas les Américains?
Non, alors ils sont basés au Luxembourg.
Ouais, ça peut rien dire, ça.
Ouais, bon, ça va.
Bon, c'est des connards.
Ouais.
Oui,
ça va. Non, CVC, c'est un des plus gros. C'est encore plus gros que Clear Lake.
Oh non!
Si, c'est encore plus gros que Clear Lake. Mais par contre, c'est le même principe que Clear Lake. C'est ce qu'on appelle du capital risk ou du private equity quand on veut frimer en anglais. L'idée, c'est genre, vous avez énormément de thunes. Avez tellement de thunes que vous n'êtes pas capable de la placer seulement sur un livret A ou en bourse.
Vous allez que dans des festivals qui n'ont pas lieu.
Donc en fait, nous, on vous propose un truc, c'est on prend votre pognon, on le met tout dans une très très grosse enveloppe et on va acheter plein de boîtes
qui sont pas cotés en bourse, donc dans lesquels on peut faire à peu près ce qu'on veut. On va les fusionner, on va les rationaliser, on va nommer des super managers, et au bout de 7 ou 8 ans, ça va craquer plus de pognon que la bourse. C'est-à-dire que si tu avais acheté juste des actions du CAC 40, ça t'aurait rapporté moins. Nous, on va te faire plus.
Moi, je prends des cicades.
Ouais, voilà. Tout à fait, ouais. Des privatisations au Rhône Poulain.
Tu viens investir.
D'ailleurs, au Rotunnel a remonté de 20 ans.
Et donc, ces gars-là, en fait, évidemment, ils prennent des trucs plus risqués, tu vois.
Ah oui,
ils vont mieux,
voilà, capital risque.
Donc ils vont prendre d'un côté une petite biotech qui fait la putasse avant qu'un gros laboratoire la rachète.
Culé.
Ouais, voilà, effectivement, des salauds. Ils vont prendre trois start-upers à Paris qui ont mis un sweat à capuche pour disrupter le business de motocrotte. Ils vont prendre un club de foot parce que bon, ouais, je crois qu'il y a un peu de pognon, ouais. Peut-être un truc à faire.
Parce qu'il y a du pognon dans le foot en fait.
Mais oui, c'est ça.
Quelque part.
Et pas Racing, mais ouais.
Donc CVC, c'est exactement ça. Et CVC, ils sont lancés dans le sport sur un coup. C'est qu'ils ont acheté à ce vieux gringo de Bernie Ecclestone les droits de la Formule 1. Au moment où de la Formule 1, tout le monde s'en foutait. C'était Schumacher. Il avait juste à monter dans sa putain de Ferrari. Il faisait trois tours. Il gagnait le Grand Prix.
C'est un peu maintenant comme la même chose.
Hein. C'est ça. Mais entre temps, ils ont revendu. C'est là où ils sont.
Et puis c'est mis au ski.
Voilà. Donc eux, ils ont récupéré.
C'est eux. C'est CVC qui les ont mis au ski. C'est eux qui ont tué.
Eux, ils ont récupéré le truc quand ça allait que dalle, que ça faisait chier tout le monde parce que la F1 c'était quand même devenu salement has-been. Ils sont allés voir l'échec pour dire bonjour, est-ce qu'on ferait pas des grands prix à Abu Dhabi et en Arabie Saoudite, machin.
Oui, sur des cadavres là qui sont dans le béton là.
Ouais, ils sont allés voir Netflix pour leur dire ah, dites voir les gars, on a des images avec des grosses voitures qui se tapent dedans dans tous les sens. Il y a moyen de faire une série.
Les gens sont tellement cons, vous regardez.
C'est ça. Et d'un coup, ils sont allés voir Lewis Hamilton. Il dit voir, tu mettrais pas des photos où tu fais des bisous avec des tigres sur Instagram?
Mais oui.
Voilà. Et d'un coup, ça devient super populaire. Ça rapporte plein de pognon. Et à ce moment-là, évidemment, ils vendent. Et après, effectivement, il y a un autre gars qui se met à gagner tous les grands prix où il a juste à monter dans sa putain de bagnole.
C'est la même. C'est Jean, allez-y. On est d'accord.
Moi, j'ai pas trouvé de place. Alors je me suis garé dans le bac à gravier.
Donc, CVC, c'est ça. Et donc, CVC. Eux...
C'est vrai qu'ils ont réussi un hold-up. Et du coup, là, ils en font un deuxième.
Ils en font plein dans le sport maintenant. Ils ont acheté le droit du cricket, par exemple, en Inde. Mm.
C'est pas con.
Ça doit être un gros marché, ça.
Bah oui, mais en fait, ça leur coûte plus cher que le foot, hein, sans déconner. Ça leur coûte beaucoup plus cher que la Ligue 1. Tu vois, le gars de CVC.
Donc... Il y a des mecs en Inde qui payent des abonnements pour le cricket.
Mais le truc, c'est qu'ils sont un milliard, en fait. Milliard.
Oui, mais c'est eux qui fabriquent les IPTV, les Indiens.
Ah, mais c'est. Les Indiens, effectivement, ils sont un milliard. Donc même s'ils payent pas beaucoup, ils sont un milliard, tu vois. Ouais. Comparativement aux
associés. 10 roupies chacun.
Ça fait 10 milliards de roupies.
Et donc CVC, ça n'a aucun rapport avec le sponsor qu'on avait. C'était pas CVC ?
CGV.
Ah, CGV.
C'était une filiale de je sais plus quoi.
Qui a apporté des lecteurs de DVD.
C'était aussi une filiale de l'ES, je crois, qui faisait encore.
Qui faisait des codeurs.
Ça continue à exister, vous savez.
Il y a des gens très connus qui travaillent là.
Ah oui, bah oui, tout à fait. Oui,
il paraît.
Des gens du COP. C'est des gens qui sont dans les anciennes technologies pour les mettre dans la technologie du 21e siècle.
C'est les grosses télécommandes pour les vieux, tu sais, ou les téléphones avec les grosses touches parce qu'ils ont plus les yeux. Là,
bien vu, bien visé.
Tu décroches ton téléphone et t'as un gars, les gars, qui c'est que vous voulez appeler?
Odéon 5230. Ça, c'est pas normal.
Non, voilà, donc CVC, en gros,
c'est
les mecs, ils ont du pognon.
Et là, ils sentent une bête blessée, c'est Covid. La Ligue 1 française. Ils viennent bien de se faire enculer par Mediapro, je sais pas comment on dit, enculer.
Trahisonné.
Arnaqué peut-être.
Arnaqué.
Fisté.
Arnafisté. Et donc,
et si on montait une société commerciale,
ce serait vachement. On ferait pas du business ensemble.
Non mais alors, en vrai, tu vois, la Brune, c'est pareil, c'est un mec assez romanesque. Non mais il y a un côté basique chez la Brune, tu vois, le type vient de nulle part. Il arrive quand même à retourner. Enfin, les présidents de club.
La blonde et la blonde.
Ouais, les présidents de club, c'est quand même des bourricots qui, depuis des années, n'arrivent pas à s'entendre pour faire tourner leur business. Et lui, il arrive à les mettre quand même légèrement sur le grill où les mecs se disent ah putain, mais il n'y aura plus de pognon, comment on va faire?
Je te confirme.
Oui, il n'y avait plus de pognon.
Il arrive à se mettre le gouvernement dans sa poche qui lui met tous les amendements et qui vont bien pour pouvoir créer sa société commerciale qui était illégale à la base parce que c'était pas prévu, parce que en France le sport professionnel est encore
comment tout le monde peut ça, c'est pas possible.
Ah, il a un réseau énorme et apparemment il est très fort, il est très très fort.
Et donc, ils négocient ce truc-là où, en gros, bon, effectivement, tu échanges du cash à très court terme pour un deal qui, sur le long terme, est complètement ruineux. Mais à ce moment-là, tout le monde est en mode balèque.
Mais si tu fais la même chose, par exemple, moi, je prends, je sais pas, mon voisin, il a perdu son emploi, il a eu de l'argent. Je lui dis, écoute, je te file 10 000 balles et après, tu vas me filer toute ta thune.
Tu vas me filer 25% de ton salaire pendant
jusqu'à la fin de ta vie. Mais si jamais je vais au tribunal, les mecs ils me disent, monsieur, vous êtes un marchand de sommeil, vous êtes un usurier, tu vas en prison. Si tu fais ça avec une vraie personne, tu vas en prison.
Ben, et là, lui, il le fait. Combien de mecs autour de toi roulent dans une bagnole qui peuvent pas se payer parce qu'ils l'ont pris en LLD, ça les faisait triper de rouler en Tesla.
En LBD, mais ça, c'est dangereux, ça.
Pour la visibilité. Ouais. Tu vois, enfin, c'est... Non, mais c'est... Et en fait, en soi, le deal CVC, dans l'absolu... La façon dont ça a été vendu est très habile parce qu'on t'a dit d'un côté, genre, il y a une urgence extrême. Alors en fait, il y avait une urgence extrême à quoi? Il y avait une urgence extrême à sauver la peau des clubs actuels. Si les clubs avaient déposé le bilan, on est bien placé au Racing pour savoir que de toute façon, il y aurait d'autres structures qui auraient pris le relais. On aurait refait un championnat. Ça aurait
peut-être. Quand t'as 40 clubs sur 40 clubs pro qui sont en déficit structurel,
bien sûr.
T'as du mal à trouver quand même.
Ouais, mais en même temps, du coup, si les 40 déposent le bilan, c'est aussi simple que ça. Tu refais la Ligue 1 en CFA 2. On est bien placé pour savoir que ça marche.
Et le champion de CFA 2,
c'est
des champions.
Tu colles des carottes à tous tes créanciers. C'est quand même ce que le Racing a fait avec tous ces prud'hommes là. Et en fait,
faillite personnelle,
point prud'homme, faudra y penser après.
Ouais. Et alors, donc, il y avait ce premier truc, les clubs avaient peur pour leur survie. Et il y avait le deuxième truc, c'est que ça a été vendu genre, ah, vous allez voir, on va investir sur les structures, on va faire un truc mieux. Qu'est-ce que les mecs ont fait après, ouais. Ils ont cramé du pognon pour acheter des Tolisso, des Lacazette, des trucs de merde.
Et donc, là, il n'y a plus de pognon.
Le pognon, il a été cramé dans les clubs sur des joueurs, augmenter la masse salariale une fois de plus.
Des kinés. Voilà.
Et donc, le pognon, il n'a pas été investi dans du structurel. Il n'y a personne qui a vraiment investi. Je sais pas, dans son nouveau stade, dans un nouveau centre.
Mais même, à quoi ça sert?
Peut-être qu'ils l'ont fait, mais...
Très peu.
Et derrière, là où la Brune est très fort, c'est qu'il a arnaqué CVC aussi. Parce qu'il leur a vendu... Enfin, j'imagine qu'il leur a vendu des droits télé en augmentation, un super championnat. Le championnat, il est quoi? Il est à chier. Mmh. Et les droits télé, personne ne veut les payer. Donc en fait, c'est du perdant-perdant.
Effectivement, les droits télé, il y a eu un appel d'offres qui n'a pas trouvé preneur.
Exact.
Et donc du coup, là, on est en négociation de gré à gré. Oui, mais ça, c'est... Il n'y a que la Brune qui pensait tirer son milliard. Enfin,
ah non, au contraire. Non, lui, il a tout fait pour que l'appel d'offres échoue.
Ah bon?
Ben oui. Parce que lui, en fait... C'est un corsaire. La Brune, c'est surcouf. Tu vois, le type, il est payé.
C'est Dunkerque.
Il est payé pour que ce soit la merde. Il est payé pour que ce soit la merde et qu'il sauve le truc. Tu vois, on a tous comme ça au boulot un gars. Le photocopieur est complètement pété. Le chef pète les plombs et y a un gars qui arrive.
C'est bon. Il remet la prise.
Avec un trombone. il défonce du bourrage papier. Et le chef qui auparavant allait buter toutes les stagiaires se calme d'un coup parce qu'on lui a sorti son A4 recto verso. En couleur avec le dessin de sa fille.
C'est ça.
Et ben, la Brune, en fait, il n'est bon que dans ces situations d'urgence. Le gars n'est pas bon pour structurer un business sur le long terme.
Et donc là, il va faire quoi?
Alors là, du coup.
Il a
monté son appel d'offres qui a foiré parce que ses prix étaient trop exagérés. Et donc là, maintenant, il peut dire au président de club: bon, ben les gars, c'est la merde. Hein. Donc, moi, ce que je sais bien faire, c'est négocier en loose day. Donc en fait, donnez-moi carte blanche. Je vais négocier en loose day avec mes amis. Je vais vous ramener un truc un peu foireux, mais pas si pire. Je vais vous donner 24 heures pour le valider et sinon de toute façon il n'y a rien.
Lisez pas les clauses.
Ça. Et après, il faudra aussi me signer un chèque parce que je vous aurais bien sauvé le cul.
Ouais.
Et là les gars se disent: ah ouais Vincent, t'as raison.
Il bosse bien.
Mais Marc Allaire a dit ça pendant. Ah mais ce Marc Allaire n'a plus rien à foutre maintenant.
Mais Marc Allaire n'a plus rien à foutre. Ouais. Mais c'est ça aussi derrière ce deal de CVC. C'est que tout le monde dit c'est complètement con, ils se sont engagés à vie, etc. Mais les trois quarts des gens ils se disaient: mais je m'en fous dans 5 ans, je suis plus là.
La valeur Ligue 1 c'est quoi? Si on est à 500 millions, on est pas mal.
Hein. On est pas mal, ouais.
Ouais, 500 millions, on sera pas mal.
Gros et sur ces 500 millions, CVC va prendre les premières années 20-25%.
20-25%, ouais, c'est ça.
Parce qu'ils vont se rattraper, ils prennent 13% de base, ils vont se rattraper sur les deux années où ils ont pas pris, et ils vont prendre encore plus une décote, c'est un peu comme le GCO.
Apparemment, il y a même un truc où ils pourraient, genre, dire, comme on n'a pas assez,
c'est ça,
on vous donne plus, mais on vous prend plus.
C'est ça.
On vous prendra.
Et à la limite, vendez-nous tout.
Ouais.
Tous les clubs, tout, comme ça on fera tout ce qu'on veut.
Et ils ont un contrat de 49 ans, 99
ans. Non, ils ont un contrat à perpétuité.
Mais ça peut pas exister.
Mais si, parce qu'ils ont pris des parts de la société.
Ah oui, c'est vrai.
Ils n'ont pas acheté les droits.
Ils ont créé une société
ils
ensemble.
Ils ont acheté les
LFP
parts.
Et
CVC.
Et c'est pas le président du Havre qui peut nous sauver?
Putain.
En disant, genre, il est allé voir Julien Courbet. Et il a dit.
Il y a une arnaque.
Pire que ça, il a écrit un courrier d'électeur au début.
Oh merde. Non, mais et le mec, il a pas tort. Il y va, il dit, mais je me suis fait enculer alors que c'était même pas moi. J'ai acheté un truc pourri, il y a une clause, ça va, il y a un truc, ça va pas. Regardez, tout, rien ne va.
Et là, Julien a fait, attendez. Alors oui, c'est Julien.
C'est quoi ce bordel?
Non, mais c'est fou, c'est fou. Genre, ça arriverait à des...
Donc, apprêtez-vous à vouloir acheter donc, les droits, des abonnements sur des mecs qui vont vouloir acheter les droits TV. Mmh. C'est quoi? C'est DAZN
DAZN.
Moi, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, parce que là, du coup, l'appel d'offres a été foireux maintenant il y a un mois et demi. Il s'est... Bah, évidemment, peut-être que les gars bossent en sous-main. On peut peut-être leur laisser un vague bénéfice du doute là-dessus. Mais toujours est-il que le compte à rebours commence à bien tiquer et qu'il n'est pas dans leur faveur, puisque là, concrètement, dans 8 mois, il n'y a personne qui veut diffuser la Ligue 1. Il n'y a personne qui paye.
Oui. C'est comme quand aux États-Unis, ils ne votent pas le budget. Quoi.
Exactement.
Il va y avoir un shutdown. Le ton hémophile cool. Ceci dit, disait l'autre, j'ai une question.
Emmanuel.
Puisque le vrai truc qui va vraiment arriver, c'est la Super League et que nous, on sera dans la ligue périphérique. De toute façon, tout ça, ça va s'effondrer. Tout ça sera caduque. Il y aura plus de Ligue 1. Il y aura plus de tout
ça. C'est là où on en vient à nos 5 clubs en multipropriété qui sont aux 6 dernières places. Mmh. Moi, je pense que le calcul d'un Blouco, c'est nous, de toute façon, pour nous, financièrement, c'est du pipi de chat. Si ils font 18e, on s'en fout. Parce que de toute façon, les clubs qui seront au-dessus des Lille, des Brest, des Metz, quand on va leur dire « Eh, dites-moi, refaites les gars, l'année prochaine, il n'y a plus de droité », ils vont faire genre « Ah, mais c'est-à-dire que... »
« Nous, on n'a plus de thunes. »
« On n'a plus de thunes. » Et après, la DNCG va faire « Bah, comment ça, vous n'avez plus de thunes ?»«
Pareil où ?»«
Bah, on va vous reléguer en Ligue 2. » Et là, du coup, tout le monde est repêché. C'est sans doute pas dans la stratégie d'un club comme Lyon qui, lui, est en vrai danger. Mais je pense que pour un Lorient... pour un Strasbourg, pour un Toulouse, les mecs ont complètement assumé le fait que...
rien à foutre.
Que de toute façon, il y a les...
C'est les mecs qui vont bas qui visent le rattrapage.
C'est ça. Exactement. Et c'est pareil dans la stratégie d'un Markeller. Un Markeller, il vend, effectivement, parce qu'il sent bien que... Enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, ça. Autant c'est un enculé, autant on peut lui rendre le fait que le mec est intelligent.
Un traître.
Ouais, mais les traîtres sont souvent intelligents, c'est ça le problème.
Il y a aussi des enculés.
Mais regarde Pierre Laval, c'était un mec intelligent.
Allez. Fusillé.
Très, très habile politiquement, tu vois. Enfin, je veux dire,
c'est pour moi, je
son truc sur les pleins pouvoirs, c'est vraiment pas mal, quoi. En termes de manœuvre. Donc, un mec comme Keller, en fait, effectivement, lui, il voit ça avant nous. Il voit ce compte à rebours. Il sait qu'il n'y a plus personne à qui il peut vendre à part un consortium qui, lui, achète non pas pour la valeur du championnat, la valeur du club, mais comme une ferme à joueurs, parce que ça l'intéresse d'avoir un truc dans un pays où il y a des bons centres de formation, c'est raisonnablement...
Et à partir du moment où ils investissent pas cher là-dedans, ils ont aucun intérêt à ce que le club s'écroule complètement, et donc du coup,
voilà.
Il les maintiendra à flot, donc, et il mettra le minimum.
S'il faut remettre 15 millions, parce qu'il n'y a pas de droit de télé, ils remettront 15 millions, le Racing survivra, gardera sa place en Liga, même s'il est 18e parce qu'il a joué avec des mecs de 21 ans, et à la limite, ça les arrange. Ils auront pu mettre les mecs de 21 ans sans pression sportive, puisqu'ils étaient sûrs de pas descendre, vu que de toute façon, des Lille, des Brest, des Metz ont un vrai point d'interrogation sur leur budget pour l'année prochaine. Parfait. On repart l'année prochaine, les gars. Ils auront fait un an, une saison complète. Un Bakwa, Angelo, un Mwanga finira peut-être par faire quelque chose.
Sophomore of the year.
Forcément, vu la quantité de joueurs, il y en a forcément player. Statistiquement un qui va éclore.
Bah, c'est comme ce que.
Bah, c'est la fameuse histoire des
startups. Des startups.
C'est le genre de.
Tu prends 5 startups, t'en as 3 qui vont se planter et aller au tribunal avec leur sweat à capuche. Mais il y en a un qui va se faire racheter et il y en a un qui va vraiment cartonner.
Point live.
Vite.
Oui, à Londres, le groupe élite du Racing vient de battre Chelsea 4-1.
Oh, Chelsea ou le groupe élite de Chelsea?
Le groupe élite de Chelsea, s'il te plaît.
Alors, on va rester
avec le Scornet.
Mathieu le Scornet. On va rester sur cette note d'espoir.
Et peut-être un pronostic pour Reims.
Ah ouais, allez, et un pronostic pour Reims.
Ouais, ça serait bien.
Roulien,
alors, pronostic pour Reims, je me dis qu'une série de 3 matchs nuls ne doit pas s'arrêter.
Et encore un match nul.
Je dirais un bon vieux 0-0. Parce qu'on a fait 1-1, 0-0, 1-1. Donc maintenant, je verrais bien un bon 0-0.
Ah, il y a un côté mastermind.
Ouais, j'aime bien.
Les combinaisons. Comme
ouais,
ça,
j'aime bien. 0-0.
0-0. Qui prend la main?
Bah, moi, je suis désolé parce que j'avais le même. Hein. Moi, de toute façon, c'est 0-0. En plus, à Reims, 0-0.
Voilà, est-ce que j'ai un autre pronostic à droite, à gauche?
Moi, je vois bien une sale défaite à l'extérieur. Ah. 1-0, pénalty contestable.
Ah ouais,
Patoche s'énerve, on nous a volé le match.
Expulsé.
Il prend suspension. Il prend suspension de 3 matchs.
Patoche qui bouscule le 4ème
arbitre.
Il acquiert son premier dan de Patoche s'il fait ça.
C'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est Paulus, effectivement.
Patoche qui lève, il prend le juge de touche à témoin.
Ouais. C'est peut-être ça cette saison qu'on doit espérer. C'est pas tellement le
club, c'est pas tellement
le retour de Keller, le mec sympa qu'on aimait. Non, on s'en fout, c'est fini, ça va traître. Mais oui, c'est la chrysalide Patoche qui devient le papillon Patoche.
Patoche.
Ah ouais, c'est Patoche.
Qui sort un truc genre les bras m'en tombent.
Écoutez, là, si on revient au score, moi je rentre à pied.
Ah, écoute, une bonne branlée parce que. Moi, tout le match de Marseille, j'ai voulu lancer mon Vieira d'émission. Et quelle air trahison ensuite. Mais,
mais Kittel, tu vas pas ranger tes actions sur Racing Stubble, hein?
Bah écoute, il faut assumer, hein, parce qu'ils ont compris que j'étais un peu pas le même sur.
L'ICS te guette.
Le même sur France 3 Alsace, voilà, ils ont. J'étais un mec posé et tout.
C'est fini ça, c'était avant.
C'est fini ça.
Ouais, t'avais confondu avec le spot expression directe de la République en marche.
Et Giga, mais bien sûr, moi, c'est bien sûr une victoire. 2-1.
Et voilà. Bravo, Giga. Lui, il ne nous trahira pas. Il sera toujours là. C'est le gars sûr.
Voilà. Et je voudrais finir cette émission. Parce qu'il nous reste. On va essayer d'arrêter à 43. Ça aurait pu être 33. C'est pas grave.
Pas de question.
43, c'est une bonne année.
Non, on s'en bat les couilles.
Pierre Laval était content.
Avec merci Marc Keller, qui a peut-être sauvé le club grâce à ce que nous a dit.
Ah putain, si on l'a. Il faut le remercier, là. Ah bah oui. Pas, il a sauvé le club une deuxième fois.
Magnifique.
And obviously, Gary, here on the left-hand side, one of his strengths was intimidated players around, and I think that is one of his strengths. And that time I was getting really, really frustrated about the number of challenges that and the foul aggressivity that he was giving to our players, to Arsenal players. So as a captain, as a leader, I wanted to put him under pressure a little bit.